RBS 91.9 FM à Strasbourg.
Bonsoir tout le monde et bienvenue sur les ondes du 91.9 FM Radio RBS. Comme chaque semaine, retrouvez l'émission Workless Play More avec la chronique du geek, l'émission qui vous parle de l'actualité jeux vidéo, de tout ce qui se passe dans la geekerie universe, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, on s'installe, on s'écoute un petit son, on se sert un apéro et on écoute Workless Play More, notre slogan, travaillez moins, jouez plus. A tout de suite sur les ondes du 91.9
RBS 91.9 FM à Strasbourg. RBS 91.9 FM à Strasbourg.
Et nous sommes de retour sur les ondes du 91.9 FM. L'émission c'est toujours Workless Playmore. On espère que vous êtes servi un petit apéro, vous avez allumé votre console. On va parler de toute l'actualité jeux vidéo, geekerie, tout ce qui se passe dans le monde entier sur ces deux thèmes là. Et avec moi pour m'accompagner, j'ai une partie de mon équipe. Raph, salut Raph, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, comment ça va et toi la forme?
Ouais, super comme d'habitude, on va arrêter de me répondre parce que sinon c'est un peu chiant, je réponds toujours la même chose.
Ok, ben ça va super, pas toi?
Non, voilà, exactement. On a aussi Elsa, salut Elsa.
Salut, je pense salut que tu voulais dire la meilleure partie de l'équipe, et ben je suis
la
partie de l'équipe.
Mais j'ai pas osé parce qu'on est quand même beaucoup dans l'équipe de la chronique, c'est un peu compliqué, après si les autres écoutent c'est un peu chiant.
Mais tu peux dire qu'on était chouchou.
Ah voilà, de toute façon, ils écoutent pas donc.
Ou c'est vrai, voilà, c'est vrai.
C'est exactement ça. Et pour terminer, nous avons Jeanne Hélène, salut Jeanne.
Bonsoir Nishan, ça me fait plaisir d'être là.
Oh.
Plus avec la voix sensuelle comme ça.
Ça va pas durer.
À la fin, non je rigole, bref, on va commencer tout de suite cette émission avec ce qui se passe dans l'actu de la semaine, et on va commencer par Jeanne.
Eh oui, très bien, donc tout le monde en rêve depuis longtemps, c'est de pouvoir jouer à Red Dead sur PC.
Sauf ceux qui ont Mac.
Alors voilà, maintenant vous pouvez, mais pas comme vous y pensez forcément, c'est le lancement du service PlayStation Now, alors ça vous dit sûrement quelque chose,
oui, ouais.
C'est déjà
apparu
ici. Donc c'est un service de streaming avec un abonnement mensuel qui permet de jouer à des jeux sur son PC.
C'est la raison pour laquelle ils ont augmenté le prix du PS Plus aussi.
Alors oui, j'allais dire, parce qu'avant c'était un service qui existait déjà, si je me souviens bien. Non,
enfin ça existait mais c'était payant.
Ah ouais,
PlayStation Now, ouais.
Ah oui, enfin,
bêta testeur,
il fallait avoir le PlayStation Plus, non, mais il me semblait que si t'avais le PlayStation Plus, c'était accessible déjà.
Non, il fallait payer, donc, enfin, tu avais l'accès au PlayStation Plus. Et en plus de ça, de tête, il fallait payer, je crois, 20 euros par mois.
Ah oui, d'accord, en plus. Ouais. Je me souvenais
17,90, un truc comme ça.
Ouais, enfin, un peu moins de 20 euros, ouais, c'est ça.
Voilà, donc c'est, ouais, effectivement, c'est 16,99€ par mois. Actuellement, ouais, vous avez un essai de gratuit de 7 jours si vous voulez essayer.
Ouais.
Et donc, ça permet de jouer à des jeux en streaming, alors aussi bien depuis son PC que depuis sa PS4.
Ça, donc, c'est pas
ce
mal.
Ce qui permet de jouer à des vieilles, enfin, pas des vieux jeux, mais à des jeux de la génération de consoles précédentes, à savoir la PS3. Dont, par exemple, Red Dead Redemption. Vous pouvez y jouer sur PC, même si, vous n'y jouez pas sur PC techniquement via Steam, tout ça machin, mais donc ça permet de jouer à toutes les exclusivités que vous avez peut-être ratées, les Last of Us, les Uncharted, Killzone, Red Dead Redemption, pas mal de Batman et la grande aventure Lego, les Lego Harry Potter. Donc il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont disponibles. Il y a aucune installation sur le disque dur, on stream directement les jeux.
Ouais, c'est du stream, ouais, c'est ça,
et on joue cash, voilà. Donc là vous pouvez l'essayer pour 7 jours et après c'est 16,99€ par mois.
Donc okay, en fait, ouais, vous payez un abonnement un peu comme Netflix, quoi.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Avec des jeux.
D'ailleurs, premier coup de gueule, Netflix augmente à partir du mois prochain.
J'ai vu ça, mais ouais, ils ont donné les raisons ou pas de ce...
Ils ont déjà augmenté, c'est plus 2 euros. Moi,
là,
sur mon abonnement,
c'est 10,99€ maintenant.
Ouais, moi, mon abonnement, j'avais le plus haut, je crois.
Oui, moi aussi, où tu peux avoir plusieurs comptes connectés en même temps.
Tout
c'est ça,
c'est à cause du succès de
Stranger Things. Tu prends le compte de milieu de gamme, t'as la même chose.
Il est à 9,99€, t'as trois comptes,
t'as Full HD. T'as juste pas le 4K en fait, et le 4K coûte plus cher. C'est pour ça que le troisième compte est plus cher, tout simplement.
Il y a plus d'écran aussi. Moi je sais que j'ai 4 comptes en fait.
Bah moi c'est pareil, j'ai 4 comptes.
Mais après il y a une différence entre le nombre de comptes que tu peux avoir et ceux qui peuvent être connectés en même temps. Vous parlez de...
Ah peut-être, je sais pas.
Parce que je crois que c'est ça, hein. C'est que nous par exemple on peut créer plein de comptes différents.
Ouais.
Mais il y a techniquement une limitation du nombre de comptes qui peuvent regarder Netflix en même temps.
D'accord.
Et c'est vrai que t'as un abonnement standard où là c'est un seul compte qui peut le regarder. Et un abonnement au-dessus où normalement tu peux avoir deux comptes en même temps qui regardent depuis des endroits différents, pas la même chose justement, quoi.
Ok, d'accord.
Alors que les profils te permettent juste de faire une sélection au final de ce que toi t'as envie de voir,
ouais,
et d'avoir
ça,
des profils avec
c'est
des
ça.
Sélections différentes.
Exactement.
Voilà, mais donc c'est assez intéressant si vous avez raté certains jeux à l'époque sur la PS3 pour une question d'équipement ou de budget. On peut tout à fait s'abonner un mois, jouer comme un porc et se désabonner.
Ouais,
ça, c'est sympa d'écouter. Enfin, c'est sympa d'écouter. Non, pardon, j'étais bloqué sur la musique de Suikoden. Désolé. C'est vrai que c'est. Alors moi, j'avais testé. Donc, j'étais bêta testeur pour le PlayStation Now. Et c'est vrai que je trouvais le concept hyper intéressant. Par contre, le catalogue n'était pas vraiment très bien fourni. Alors, est-ce qu'aujourd'hui,
ce sera
fait...
pas les nouveautés, clairement. C'est
ouais,
pas les
bien
derniers
sûr.
Jeux,
bah oui, bien sûr. Bah, quoique, c'est possible. Hein. Ouais, non, je pense pas.
Non, je vois mal.
Ouais, non, parce que t'as des gens qui vont s'abonner un mois, qui vont ruiner un nouveau jeu pour 17 euros.
Je prends un exemple. Bah ouais, mais tu veux faire. Enfin, moi qui suis un très très gros fan de la série Call of Duty, tu mets un Call of Duty sur le PlayStation Now, tu payes 17,90€, on va dire 20 euros par mois. Tu sais très bien que le jeu, tu ne l'achètes pas pour le online. Tu vas vraiment le jouer pour faire le mode multi. Et là, tu seras même plus entubé parce que tu payeras 20€ par mois plutôt que d'acheter ton jeu à 60€. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Alors moi, je voyais plus ça sur le côté l'éditeur perd du pognon.
Non, moi, je fais que du marketing, moi, ici.
Ouais, mais moi, je pense plutôt côté entreprise. Si ton jeu qui vient de sortir, tu le balances sur le PlayStation Now qui est à 17€ par mois, alors que tu le vends en version boîte ou des maths à 70€, t'as quand même un manque à gagner énorme, mais c'est pas intéressant.
Bien sûr, mais ça dépend. C'est, comme dit, ça dépend du type de jeu. Ouais. Tu prends un Call of qui est techniquement reconnu pour un jeu online.
Mais je pense que ça doit être des trucs voilà, où il y a du multi, c'est
voilà.
Ça.
Qui tu limites la campagne, tu l'as fait à peine pour débloquer les trophées, et voilà, c'est tout.
Par exemple, nous, le GTA à la maison, tu vois, on l'a en version PS4. Ouais. Mais au final, comme tous les potos jouent sur la version PC, on a fini par le racheter. Alors que là, si jamais il avait été dispo, peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire un cross. Quoique, je sais pas, le mode online reste toujours au final celui de la PlayStation.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de cross-platform par contre.
Mais ouais, voilà, pour certains jeux, j'imagine que ça doit pas être avantageux parce que tu loupes le fait de potentiellement l'acheter sur deux plateformes plutôt que de l'acheter que sur une.
Est-ce que c'est pour contrer l'offre qu'il y a justement chez Microsoft? Parce que Xbox, c'est pareil, tu as un compte Xbox One, enfin Xbox, on va dire, un compte, je sais plus comment il appelle, Xbox Gold, pardon. Tu as ce compte-là, tu as un PC sous Windows 10, tu as accès à ton compte Microsoft, Xbox, sur ton PC. Et là, tous les jeux que t'as achetés, ils sont gratos sur
parce
PC.
Parce que les PC sont Microsoft, donc
oui, c'est la même marque. C'est ça.
Donc est-ce que c'est un peu pour contrer cette histoire? Enfin, je sais pas.
En tout cas, c'est quand même généreux de la part de Microsoft quand tu vois certains jeux qu'on a achetés plusieurs fois à la fois sur PC et sur console.
Ah bah carrément.
Chacun de notre côté.
Ah bah moi, GTA 5, j'ai acheté 4 fois.
Ah bah tous les GTA, je les ai achetés 2.
Mais du coup, genre, je sais plus. Bah si, il y a peut-être les Halo et tout ça, mais je sais que parfois il y a des exclusivités Xbox. Est-ce qu'il y a des exclusivités pures Xbox? Et pas du tout PC.
En général, non.
Ouais.
En général, s'il y a une exclu Xbox, ça passe sur PC.
Du coup, là, j'allais demander si le cas se faisait de jeux Xbox qui étaient jouables sur PC, alors que normalement, ils ne sont pas sur PC. Mais n'étant pas joueuse Xbox, je ne peux pas répondre à cette question.
Non, c'est vrai que la plupart, ils sortent Xbox et PC.
Ok.
Quand c'est l'exclusivité, c'est sur les deux, quoi.
Ouais, c'est Microsoft, en vérité.
Oui, c'est ça, c'est une exclu Microsoft, pas Xbox. Ouais.
Ouais, bah non.
Bon, après, je sais pas, 16,99€ le PlayStation Now, plus ton abonnement au PS.
Mais je réfléchis à un autre
par
truc.
Mois, 16,99€ par mois aussi. Hein,
si tu. Un truc tout bête, hein, mais. T'as pas de PS4. Pourquoi t'ouvrirais pas un compte PlayStation Now et tu jouerais
avec
que dans stream?
Avec le compte d'un pote.
Bah, ça, c'est ouais, carrément.
Bah non, même pas.
Non, même pas. Tu payes 16€ par mois et finalement t'as accès à un compte PlayStation.
Quand même avoir... Ah oui, d'accord, non, mais faut quand même avoir payé les jeux pour y jouer.
Non, du tout.
C'est en streaming total.
Ah oui, d'accord.
C'est un peu comme les ce qu'ils font là.
D'où le nombre de titres limités, etc.
Voilà, exactement. C'est un peu comme ce qu'ils font là avec le. Mince, j'ai oublié le nom. Ah mince, le boîtier sur PC là.
Ah oui,
je sais plus non plus.
Boîtier noir là.
Ouais.
Non. Il était Shadow. Shadow.
Oui,
Shadow.
Voilà.
C'est exactement le même concept, sauf que Shadow, bon, bah, là, par contre, t'as accès à tous les jeux.
Et après, Shadow aussi, leur concept aussi, c'est que t'as pas besoin de console ou de PC. C'est leur boîtier.
Ouais, c'est leur boîtier, ouais, c'est ça. C'est ça.
Qui stream tout, qui gère tout.
Donc finalement, pour les gens qui n'ont pas forcément l'accès à une PS4, est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Ça peut
être sympa, quoi.
Juste te payer l'abonnement.
Mais bon, t'as pas le catalogue de tous les jeux, voilà, c'est ça, ouais. Bon, écoute, on verra. On ne testera pas. On verra plus tard. Tu peux continuer, Jeanne, c'est bon, on a fait notre débat.
Alors, dans la séquence RIP, Rest in Peace, ça arrive souvent pour des consoles,
quoi,
des accessoires.
Quoi, la Switch? Déjà?
Non, pas encore, au contraire. Dans la séquence RIP, ce sera pour le Kinect, dont Microsoft annonce la fin de la production. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette caméra révolutionnaire à détection de mouvement qui devait changer notre manière de jouer?
Ouais.
Ah, le
high-tech. D'ailleurs, même, exactement.
Non, le
d'ailleurs, même si je me rappelle bien, il l'a forcé au début avec un prix plus cher sur les Xbox One. C'était dans les premiers bundles.
Ouais, moi je l'ai avec le.
Ouais,
avec le
voilà.
Kinect,
et finalement, il n'y a pas eu grand chose qui a été.
Non,
fait
franchement,
sur ça.
À part Just Dance.
Ouais, c'est ça. Et Just Dance, ça marche
Kinect.
Avec un PS Move ou une Wiimote ou n'importe
quoi.
Ouais,
moi je trouvais ça cool. Genre, t'arrives devant
c'est
ta console,
cool,
t'es dans ton canapé, tu dis salut Xbox, ta console salut, mais détecte ton profil et c'est exactement qui tu es.
Non, mais est-ce que t'as besoin d'une caméra pour lui dire salut Xbox et qu'elle s'allume, quoi?
Non,
une
ça,
caméra avec
non,
un grillage et qui détecte tous les
spaces. Ce qui était fou dans le Kinect, c'est que, par exemple, quand tu jouais à Just Dance ou les jeux qui mettaient
pas
une
manette,
tu voyais ta forme dans la caméra.
Ouais.
Ils te reconnaissaient totalement.
Ça n'a rien à voir avec
c'était
un PlayStation Eye Toy.
C'était vraiment une reconnaissance de ouf, clairement. Mais à part Just Dance, où les petits jeux...
Oui, où voilà, tout est exploité, ouais.
Ça sert à rien.
Bah, tu reviens à la même chose sur le...
Ouais, mais ça, c'est plus un problème. Oui, enfin, voilà, un problème d'éditeur, je pense, hein, qui se mouillent pas, qui font pas de
ouais,
jeux,
qui jouent pas le jeu.
Sont compatibles avec, ouais, et qui...
le jeu de mots,
qui pensent pas forcément ouais, leur jeu pour la Kinect. Parce qu'en plus, du coup, effectivement, le problème, c'est que si jamais tu veux penser à un jeu pour la Kinect, ça veut dire que les autres détections de mouvement des autres consoles sont pas forcément gérés pareil, puisque la Kinect ouais, prend en compte tout le corps alors que les autres
ah
prennent
ouais,
en compte la manette.
PlayStation,
c'est-à-dire que vraiment tu fais une exclu Xbox. Est-ce que en tant qu'éditeur t'as envie de t'impliquer
ouais,
en
ouais,
mettant de la thune dans un projet qui
sachant
est uniquement
qu'au niveau
Kinect,
du marché
c'est un peu chaud,
est
quoi,
quand même très loin par rapport à Xbox.
Non mais, pas sur leur côté caméra, je suis désolé.
Non, mais
Toy,
en général
n'a rien
en
à
général,
voir avec un Kinect, hein. Un Kinect,
non mais même
Lighthouse
c'est la PS2 maintenant, c'est le PlayStation caméra. C'est
pas bah
oui,
ouais,
ouais, qui marche avec les
même la PS caméra
voilà,
c'est pareil,
voilà,
c'est ça,
c'est
même la PS caméra
ça se
craque
en fait,
c'est différent, voilà, exactement, alors que là moi je franchement j'étais bluffé par le système où on te filme vraiment en direct, tu lèves ta main pour activer le Kinect et puis tu veux lancer ta, je sais pas, t'as sur ton dashboard de la console, tu dois avoir 10 pages et bah tu fais comme sur un livre, tu feuillettes tes pages et ton dashboard suit ça. Je trouvais ça exceptionnel, chose que tu ne retrouveras pas chez Sony par exemple, parce qu'ils n'ont pas forcément voulu développer un produit de haute qualité. Après, ils ont été peut-être plus malins, parce qu'ils savaient très bien que dès le départ, personne ne voulait qu'on, enfin, taffer sur leur projet de caméra.
Comment ça, Sony n'a pas voulu développer un projet de haute qualité?
Bah ouais, bah le high-toy, ouais, je suis désolé, enfin, ou le caméra, tu fais
ouais,
quoi avec?
Bah après, ouais, mais... ouais, c'est peut-être plus tendu aussi, je sais pas, parce
ah,
que
si,
à un moment donné, Kinect a dû déposer un brevet aussi, on sait pas.
Ouais, bah c'est ça.
On connaît pas les dimensions du brevet.
Attends.
Est-ce que c'est justement
attends,
du ouais, genre la technologie où
il
t'as pas de manette ou machin,
des
ou c'est que ton
qu'il
corps
y a, technologie, pour moi, il y a, enfin, déposer un brevet, c'est un truc bête, hein. Mais tu déposes un brevet, le mec il change une lettre, c'est un autre brevet, hein.
Mais justement, sur Kinect, en fait, il y a plusieurs technologies qui ont pu être réutilisées sur des accessoires qui existent actuellement, donc c'est pas complètement à perte. Enfin, la
ouais,
recherche et développement qui a été effectuée n'est pas perdue, quoi.
N'est pas pareil, ouais, ouais.
Mais ouais, bon, après, je sais même pas si on peut comparer le PlayStation Camera et le Kinect, vu que le Kinect, c'est toute une détection de l'espace et de la personne, alors que le PlayStation Camera, ça s'appuie encore une fois sur des manettes, en fait. Sur des...
C'est un capteur, ouais, c'est un capteur
PS Move.
Voilà. C'est pas, voilà, qui a besoin de voir les PS Move pour savoir ce que t'es en train de faire.
C'est ça. Ça, c'est bon. Après.
Et donc, c'est la mort du Kinect.
Et voilà, c'est rip triste, le Kinect, on arrête la production.
En même temps, ils continuent encore les consoles Xbox 360.
Moi, je savais même pas qu'ils produisaient encore des Kinect, surtout.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais,
que là,
ouais,
ils arrêtent
ouais,
la production en usine.
Oui, ils
bah,
production
je pense qu'ils
ouais,
produisent la... encore pour Just Dance.
Non, mais là, ouais. Bah ouais, mais non, mais la Xbox, la console en elle-même, on en produit encore.
Mais la c'est 300, avec la Xbox,
je pense
ouais,
pas,
la
non.
Hein?
Ouais, ouais,
la Kinect
ah,
était
ouais,
déjà
ouais,
Xbox 360.
Ah ouais? Moi, je suis
Xbox
après,
One.
Je suis un mec
ouais,
rétro, moi, tu sais.
Ouais, mais il l'avait vendu après en obligatoire sur la Xbox One dans les premières séries.
Ouais. Oui, voilà, ouais.
En fait, non, elle fait pas vendu obligatoirement, mais elle était
si,
dedans.
Y avait pas
elle était
pack,
dans le pack.
Non, il y avait
elle
pas
dans le pack.
Les premiers packs, c'était
ouais,
obligatoirement Kinect, et après, ils se sont dit merde, c'est de la merde, on enlève et on baisse le prix.
C'est ça. Encore, je sais pas
ils
si
ont dit
prix,
merde,
en fait.
Putain, on vend toujours pas si, plus.
Ouais, c'est bizarre.
Ah oh merde, ils ont déjà fait 10 millions. Ouh.
Ah mince, Sony vend le même produit, enfin, vend la même chose que nous. Il y a une console next-gen. Il n'y a pas de caméra, mais ils sont aussi chers que nous. Mais par contre, eux, ils en vendent. Bon. Il y a un problème.
Et en plus, la caméra, les gens, ils l'achètent à côté, quoi.
En plus, ouais, c'est ça.
En occasion.
Hein. Tout ça pour faire du stream sur Twitch. Merde.
c'est vrai, en plus.
Ou pas que t'avais des fonctionnalités rigolotes, genre sur Until Dawn, il y a les moments où il y avait des screamers, la caméra PlayStation te prenait en photo.
Ah,
oui,
ça c'est
oui,
pas
oui,
mal.
Oui, oui, ouais.
Ça d'accord,
super
ça c'est validé.
Super utile.
Ouais. Supprimer
là,
le dossier.
Tu vois les
dos, ouais c'est ça, t'as tous
supprimer
les dossiers.
Le dossier. Ok, ensuite.
Alors, un truc que je trouve assez intéressant, en fait j'aime bien les ventes de consoles au Japon, je sais pas si vous avez déjà suivi ces chiffres. Parce
sont
qu'ils
pas
sont
pas du tout les mêmes qu'en Occident, c'est ça?
Et surtout, ils sont au chiffre près. C'est-à-dire que je peux vous dire que
ouais,
la semaine dernière, il y a 41 Wii U qui ont été vendus au Japon.
C'est très précis.
Encore des gens qui ont acheté 41 Wii U.
41 personnes
neuf
qui ont acheté des Wii U neufs.
C'est pas énorme, 41 ouais, personnes quand tu réfléchis.
Ouais, après, qui en achète encore, quoi? Acheter
non, mais,
une Switch, les gars.
Ouais, mais
bref,
une promo,
tout le monde n'a pas le budget. J'imagine que maintenant, la Wii U doit être plus accessible.
Ouais.
Justement,
non, c'est
ça dont je voulais parler. C'est que la semaine dernière, il y a 126 000 Switch qui ont été vendus.
C'est pas énorme.
Qui donne un record sur l'année au Japon de 2 millions 20 000 Switch.
Le mec qui troll non-stop.
2 millions 20 000 Switch.
Énorme. Combien?
2 millions 20 000 Switch.
Au total,
au
depuis la sortie, c'est ça, au Japon?
Cette année.
Le 3 au Japon.
Année 2000, année en cours. Okay. Ouais.
Bah, si tu compares à une voilà, PS4, c'est pas énorme.
Non, bah non. Non.
Oui, mais bon, elle est sortie depuis.
Par contre, si tu compares à une Xbox One,
aussi,
ouais,
la
bon,
console. Donc,
La première année, elle a fait combien, la PS4?
Elle a fait 10 millions en un an. Il me semble peut-être, hein, faudrait vérifier, mais moi il me semble que c'était ça le chiffre. Un
seulement
peu,
non, après,
moins que ça.
Elle était aussi beaucoup, ouais, 10 millions.
Bah non,
ça
sur
fait
un an,
sixième de la France.
Sur mais sur 7 milliards de personnes.
Si tu ouais, prends le ratio, on est au mois de novembre. Ça fait quoi? Ça fait 6, 7, 8 mois. 8 mois, on a fait 2 millions. Ouais, si, c'est pas mal, en fait.
C'est, franchement, c'est pas
ouais,
mal.
Ouais, c'est pas mal. Après, c'est pas du tout le même produit. Hein,
faut sachant que Noël est pas encore arrivé et que ouais, clairement, Noël va quasi doubler les ventes.
Il y avait aussi le problème de la Switch, ils étaient en rupture pendant pas mal de temps.
Oui.
Ouais, mais la PS4, c'est pareil, mon pote.
Et surtout, c'était quoi le mois de sortie de la PS4? Parce que ça change, on parle
alors,
toujours en
année
calendaire, tu vois, mais c'est...
Août, c'était au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons.
Ah, juste avant Noël.
C'est juste avant Noël, ouais, ouais. Exactement.
Alors, la PS... Bon, je fais une petite digression, mais il y a eu 67,5 millions de PS4 vendus dans le monde depuis son lancement en 2013.
Ok, donc tout le monde en France est bien loti, nickel.
Donc voilà.
Ouais, c'est exactement ça.
Sachant que pour, la PS3, il y a eu 85 millions d'exemplaires et la PS2, il me semble que c'est stratosphérique, que c'est 150
ouais,
millions.
Ouais, là, ils ont battu tous les records.
Ça,
à la PS2, c'était quand même un truc fou. Hein.
C'était quand même une princesse, une réelle.
Ouais, il y a eu tellement de bons jeux.
Bah, même, il y a eu un.
Même les développeurs,
En fait, ils ont continué à la produire super longtemps après pour les pays en voie de développement et continuent à vendre des PS2.
Ouais,
alors que la PS3 était déjà
bien, d'ailleurs,
sortie,
même... Sony réexploite tous les titres de PS2 pour les faire en remaster tellement c'était bien.
Non, mais
il faut les ressortir sur PS4.
PS2 parce que ben j'ai eu la mienne à lâcher quoi donc j'en ai racheté une.
Ah ouais. Faut dire aussi
pour l'avoir toujours quoi.
Moi la PS2 tourne encore. La Slim par contre qui a été sortie bien après nous a lâché depuis un moment mais vraiment la bonne vieille PS2 elle marche encore.
Moi c'était l'inverse
à l'envers comme la première en
comme
fait.
La PS1, ouais.
Faut la mettre à l'envers pour que ça fasse tourner le CD mais ça marche.
En étant totalement transparent et en ne mâchant pas les mots. Aujourd'hui ce qui a fait vraiment le gros succès de la PS2. C'est qu'on pouvait la hacker très facilement.
Oui, c'est vrai qu'il y avait différentes méthodes.
Je ne donnerai pas de nom, moi. On pouvait
Nishan
souder...
Sebarut, 3 rue de Lingolsheim, c'est quoi
rue de
on pouvait mettre ce qu'on appelle un mode chip sur la console, c'est-à-dire mettre une puce qui permettait dès le départ de faire tourner les jeux gravés.
Mais même la PS1, c'était pas si compliqué que ça.
Non, c'était
parce
pas...
que t'avais soit la puce, soit l'action replay
exactement.
Que tu branchais derrière.
Ouais, c'est ça. Mais sur PS2, c'était même encore plus fou, parce que moi j'avais un système qui était complètement ouf. C'est-à-dire qu'à l'arrière de la console, t'avais un port qu'on appelle un port IO qui personne ne sait à quoi il sert.
Ouais.
Et en fait, il sert à brancher un disque dur FAT, un HDD 3,5 dans la console. Mais techniquement, personne ne sait à quoi ça sert. Et ben aujourd'hui, tu peux copier tes jeux d'origine. Un pote te prête un jeu, tu le mets dans ta console. Moi, j'ai un système qui me permet de copier, d'enregistrer le jeu directement sur le disque dur de la console.
C'est ça, là.
Ackerman.
Voilà. Et ben, tu vois, et ben, c'est grâce à des technologies comme ça que les gens se sont dit, de toute façon, je vais acheter une console, enfin, ce qu'on appelle le unit, la console seule, et puis après, finalement, je vais soit te poser une puce, soit je vais la hacker. Et ainsi de suite.
Et
c'est ce qui a fait que voilà.
Et c'est bien parce que ça donne des gens bidouilleurs et qui s'intéressent au fonctionnement des choses et qui cherchent à comprendre par elles-mêmes comment ça marche.
Je sais pas, j'avais
comment faire. Moi, j'ai hacké la PSP, pour tout vous dire. La PSP 1000, j'en ai trouvé une fois, un marché aux puces à 50 euros. Je lui ai dit, vas-y, mon gars,
rue de. C'est quoi, Neudorf 67-201 201, c'est.
C'est Egbo.
C'est Egbo.
Rien à voir.
Mais ouais, moi, j'avais l'action replay sur la Play One. Et du coup, quand je jouais à la Play, elle était ouverte, avec un ressort qui faisait tenir en fait le capot pour donner l'illusion à la console que c'était ouvert.
Avec le petit
et
ressort.
Tu voyais la galette qui tournait comme ça pendant que tu jouais avec le truc branché.
Attends, moi j'ai connu le vrai swap console, hein. Le vrai swap console sur la PS1. Non, c'est encore plus fou. C'est-à-dire que en fait, tu ouvrais ta console. C'est sur les premières séries PS1, donc la grise machin. Tu ouvrais le capot à l'arrache pour arrêter le disque. Mettre un jeu gravé dedans et qui tournait encore.
Alors moi ça c'est ce que j'avais vu sur la Play 2, c'est avec un petit ustensile qui permettait
de sortir le
CD et j'avais un pote qui avait ça et on jouait à DDR et il avait un tapis en métal, c'était l'orgie, c'était mes premières années de fac à Strasbourg. Nostalgie, tu vois, et on jouait avec des heures à DDR voilà,
comment
et on sortait le CD comme ça,
DDR, mais c'est génial. Mais me demandez pas pourquoi chez moi j'ai une Play 2 qui fait ça, c'est-à-dire que j'ai un outil pour l'ouvrir
oui, voilà, c'est ça,
et je peux jouer au jeu japonais après.
Pas le Magic quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle.
C'est ça, c'est
Swap
Magic, ça s'appelle.
Swap Magic, ouais.
C'est juste un truc en plastique, tu tires l'avant de.
Ouais, voilà.
En fait, c'est grâce à ce système-là que moi j'avais un disque dur externe. Enfin, j'avais un disque dur que j'avais vissé dans la console. Et avec le Swap Magic, en fait, il te disait, bah voilà, à partir du moment où tu peux glisser ton truc, la console avait chargé le boot. Toi, tu mettais ton jeu dedans, il le copiait automatiquement. Et après, alors, le plus fou, c'est que vu que tu n'avais pas de. T'avais plus besoin d'avoir l'original dans ta console, tu l'avais sur disque dur. C'est-à-dire que les chargements étaient même beaucoup plus rapides. Et ça c'était
ouais,
classe.
Bah, tu m'étonnes.
Mais ce qui a fait aussi le succès de la PS2, c'est que les développeurs ils ont pu se faire plaisir. T'as des milliers de jeux dessus. T'as pas des milliers quasiment.
Et puis après on avait quoi
On avait quoi en face de la PS2
Voilà, on avait quoi en concurrence de la PS2
Ou la Nintendo 64.
Non.
La GameCube.
Non, non, c'est arrivé. C'est arrivé après. Ouais, c'était la GameCube.
On était sur la GameCube. Chez Sega, on avait quoi?
C'était mort là.
Bah
c'était
non, la Dreamcast, c'était en train de faire. C'était déjà foutu.
Non, la Dreamcast, ouais, non. A été avant ou après la PS2?
Je crois que la Dreamcast était avant la PS2 non, et que la PS2 a dû sortir sur la fin de la Dreamcast. Si
on arrive sur la fin de la Sega Saturn.
Pour moi, de tête, c'est 2001 la PS2.
Parce que clairement, moi, PS2, je jouais à Soul Calibur 2. Alors que le Soul Calibur 1 était sur Dreamcast et je crois pas que le 2 soit sorti sur Dreamcast.
Alors la Play 2, elle est sortie le 4 mars 2000.
Très précisément.
Et c'est précis.
Non, mais t'as raison, la Dreamcast est sortie avant.
Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr.
Et la Dreamcast est la première console pour proposer du jeu en ligne.
Ouais, avec
Elle est sortie en 98. Bon, après, échelonnée 90. Alors, 98 c'est au Japon, donc excusez-moi, 99 plutôt.
Ouais.
Mais bon, il me semble qu'elle était quand même chère.
Pauvre.
Hein
ouais, déjà,
elle était quand même chère.
Et puis, ouais, 4, ouais j'allais dire, je suis bête parce que j'aurais pu donner la réponse. Parce qu'on avait les premiers King of Fighters qui étaient remis en. Sur la Dreamcast et c'est effectivement et on jouait à Soul Calibur sur Dreamcast.
Ouais. Non, pas sur Dreamcast. C'était le tout premier Soul Calibur. Soul Edge c'était encore sur PlayStation 1
Jouer à Soul Edge justement
était
et
trop bien.
Il y a même des fois où on se battait pour deux fois avec un pote juste pour voir la culotte justement de
Sophie Tia.
Et oui, pas la peine de la nommer, on sait tous de qui on
T'as
parle.
Qui, de toute façon, pas besoin de voir sa culotte, et la tenue elle est tellement moulante que tu vois tout.
Les seins ont leur propre moteur graphique et leur animation complètement à part de tout le reste du corps, c'est merveilleux.
Ouais. Mais donc, j'ai envie, on va s'écouter l'OST en même temps de
Vas-y,
ça va me rappeler des souvenirs.
J'aimais tellement la musique.
En plus, moi, j'aime bien
là.
Le Sola Kaliba.
On pourrait regarder Dead or Alive.
Même dès le départ, tu avais le mec qui t'annonçait une voix super grave, genre oui, Welcome back, genre, new stage ça, history. Ouais. T'es déjà chaud, tu dis oh putain, ça commence.
Et après, t'as un vieux gars qui arrive. EA Sports and Sarton again.
C'est vraiment un souvenir super épique de la musique d'intro de Soul Edge, quoi, du premier.
Bah, Soul Edge, même Soul Edge à l'époque, c'était déjà un jeu de ouf.
Ah ouais, c'était dingue. Hein. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais vraiment toute petite. On jouait avec mon frère, on jouait avec des potes. C'était dur, le mode campagne de chaque personnage. Il y avait des choses qui étaient imposées, en fait.
Le mode campagne?
Ouais, il y avait un mode campagne, en fait, pour chaque perso.
Tu prenais
par exemple Taki ou Voldo ou quoi.
Ouais.
Et chaque perso avait son mode personnalisé ou sur une map, par exemple. Je me souviens d'une Sophitia qu'il fallait poutrer en lui en fait des blocs ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait vraiment des trucs où t'étais obligé de faire certains objectifs pour valider le niveau.
Ouais, mais
genre faire sortir le mec trois fois du ring.
Ça,
ou des
c'était
comme ça.
Soul Calibur 3. Hein.
Ah non, c'est le premier, c'est Soul Edge. Ah, je te jure. Je me souviens d'un niveau qui était super dur. Je l'avais recommencé il y a quelques années et je butais sur les mêmes conneries en fait. Donc,
je me rappelle même plus.
Ouais, il y avait déjà des objectifs qui étaient différents pour les persos.
C'était il y a 20 ans.
Ouais, c'était il y a.
Bah non, je suis désolé, moi je suis fan. J'adore toute la saga Soul Calibur.
Je l'ai encore, si jamais tu
Soul Edge.
Veux.
Ah bah ouais, carrément.
L'expérience, passe ça.
Bah c'est le même. Soul Blade et Soul Edge, c'est le même.
Sur Play One.
Ouais, c'est ça.
Soul Blade, c'est la version Europe. Et Soul Edge, c'est la version.
Oui, au final, c'est vrai que j'ai Soul Edge, mais celle que j'ai à la maison, c'est Soul Blade.
Le vrai.
Si tu veux, je pourrais te.
Ouais. Qui et potentiellement te la prêter. C'est dégueulasse, quoi.
Alors, si tu veux retenter.
Après vérification, donc la PlayStation 2, 152 millions d'exemplaires vendus.
Normal.
C'est la reine. C'est la number one des consoles vendues à travers le monde. C'est-à-dire que derrière, il y a la DS et c'est 154 millions. La Nintendo DS.
Ah, la DS, mon pote, il y en a eu tellement.
Ça a quand même.
Attends, mais la frénésie que c'était au moment où ça s'est passé, la DS, quand même, c'était assez fou, mais c'était justifié. Hein.
C'est vrai qu'autant moi j'étais plus folle des consoles de salon Nintendo, mais pourtant les consoles portables.
Bah moi c'est. Voilà.
C'est Nintendo.
J'ai continué
clairement,
en fait.
C'est Nintendo,
que ce soit la DS Lite, la 3DS, la 3DS
la
XL,
New
je les ai toutes.
Alors non, moi j'ai fait sauf, j'en ai pris qu'une par famille.
Non, mais
à chaque
pire, c'est que maintenant ils ont fait tous les nouveaux jeux qui sortent vont être uniquement compatibles New 3DS. Donc
oui.
Tous ceux qui ont les anciens modèles.
Ils l'ont fait à chaque fois, on va pas faire les surprises quoi.
Ce caractère select de Soul Edge et de Soul Calibur est juste fou.
Grave.
Je suis désolé, je reviens là-dessus.
On parle de Nintendo là.
Ouais, mais justement.
Non, mais vas-y, coupe. Ouais.
Donc, on peut continuer parce que là, on part en.
Ouais, du coup, donc
quoi.
Numéro 1, PS2.
Ouais.
154 millions.
157 millions.
7 millions, pardon.
Mmh. Numéro 2, Nintendo DS. 154 millions.
Okay.
Sachant que DS a quand même fait beaucoup plus de versions que PlayStation pour la même console. C'est-à-dire que la DS, on a la DS Lite, la DS Lite, la DS Fat, la machin.
Non, pas DS. Non, la DS Lite, DSi.
Ouais.
Oui.
DS Lite, DSi et DSi XL sûrement.
Ouais, possible. Ouais, c'est ça, ouais.
Et voilà, donc c'était quand même toute la génération
puis,
avant la 3DS.
Encore une fois, je vais revenir sur ce problème de hacking. On a tous connu les cartouches avec micro SD.
R4,
ouais, R4 ouais. Exactement.
C'est pour ça qu'on l'a appelé.
Un petit big up à tous les gens qui ont connu le magasin Asentech. Azonto.
Merci, bisous. Alors,
Ascent.
Big up, merci, bisous, mais quand même 100 balles pour changer un disque dur de PS3, c'était un peu cher, les mecs.
Anto, mon pote, si tu m'écoutes, tellement de gens qui te haïssent. Non, je rigole.
Je
ne sais plus là.
Non, mais en tout cas, on se rappelle plus de cette histoire épique. Enfin, pas épique, mais.
Je ne vais pas citer le nom du responsable du magasin parce que voilà.
Anthony, comment ?
Comme par hasard, mon téléphone vient de sonner.
Allô, comment ça, tout
parle ouais, du coup, non, bah, c'est vrai que alors, malheureusement, pour ce qui s'est passé par rapport au magasin Asentech, ils vendaient effectivement des puces R4. Et manque de bol, Nintendo leur est tombé dessus, donc ça a été le plus gros coup qu'ils aient fait, c'était effectivement de tomber sur le magasin Asentech Strasbourg, et l'amende a été très 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 lourde.
Alors il me semble qu'au début ils ont pu se défendre en donnant l'argument du « on vend les R4 mais on sait pas comment vont les employer ouais, les clients ». C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre les photos de leur chien ou de leur chat dessus.
Techniquement, le R4 ça te permet de mettre des embrous.
Oui, ou de mettre des thèmes aussi sur ta DS, voilà, pour ton menu, tu peux avoir des thèmes différents, des petits designs, des machins.
Ouais, c'est
ça. Mettre des musiques, ou éventuellement il y avait la possibilité de consulter des médias, etc.
Ouais, à la base c'était ça, mais finalement c'était pas ça du tout. C'était pas du tout ça.
Finalement, il s'agissait de télécharger des émulations de jeux pour y jouer gratuitement.
Mais
voilà.
Si tu l'as chez toi, tu as le droit d'avoir l'émulateur, l'émulation et la ROM, tout à fait, c'est tout à fait autorisé.
En fait, ouais, de tête, mes souvenirs ont peut-être joué un peu parce que j'étais un peu dans l'histoire. Je voyais, je connais très bien le magasin Asentech et son propriétaire et son deuxième propriétaire après. Bon, bref, l'amende a été de 450 000 euros. Mais là, ça a mis une claque à tout le monde. Clairement, tous les magasins ont arrêté du jour au lendemain de fournir de l'R4.
Ils ont voulu montrer l'exemple, hein.
Ah bah ouais, ils ont.
Voilà. C'est en même temps, ça se comprend. C'est difficile de.
Après,
le manque à gagner. Développeur ou un éditeur de jeux. De
finalement, ils ont réussi à trouver
une
parade, mais il y a eu le magasin a été racheté par une société d'Espagne. Non, Espagne, qui est Chip Spain, qui est pareil, était reconnu dans le monde entier pour vendre des puces à souder soi-même sur les consoles. Enfin, c'était un magasin qui faisait que de la puce et de ce truc-là. Et donc, du coup, ils ne touchaient plus forcément le marché français. Enfin, c'est une histoire, enfin, une magouille de ouf. Et voilà. Donc, si les gens qui ont connu Asentech m'écoutent, on a tous eu des petites larmes aux yeux.
Je pense le patron aussi, avec la note.
Walter, bon courage. Bref, voilà, c'est fait.
Donc, la DS, la R4, c'était sympa, c'était pas légal du tout. Mais je sais que quand je travaillais à Micromania, j'avais quand même des gamins qui avaient le culot de venir me demander ça.
Ouais.
Est-ce que vous vendez des R4 pour la DS?
Ouais. Oui, mais bien sûr.
Au Micromania. Ouais. Mais oui, bien sûr, quelle excellente idée. Bon, donc, je finis juste de... Allez, je vais faire un petit top 4 ou 5 des consoles vendues. Comme on a parlé du sujet, donc en 1, la Play 2. En 2, la DS avec 154 millions. En 3, la Game Boy, 118 millions.
Ah ouais?
En 4, la Play 1, 104 millions. En 5, la Wii, 101 millions. Et en 6, la PlayStation 3, 86
pas
millions.
Pas du tout de console Microsoft.
Alors attendez, la première console Microsoft est à la 7e place. Désolé, c'est la Xbox 360.
Ouais, 7e quoi, mais je veux dire.
Loin derrière ses concurrentes, voilà quoi.
Et pourtant, à l'époque, elle avait quand même de quoi faire, la Xbox 360. Il y avait quand même pas mal d'exclus.
Ouais, il y avait Halo.
Halo, ouais.
Je cherche la Wii U dans ce top.
Et alors, oui, voilà, on y revient sur le fait que
la Wii U, tu peux chercher bas, très très bas.
Les jeux sont dispo PC aussi. Alors qu'effectivement, Halo 1, dans mon souvenir, n'est dispo que sur Xbox. Mais
ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, il me semble. Mais bon, après, c'est vrai que la particularité de Microsoft au cours, c'est que les jeux sont souvent dispo sur Xbox et sur Windows, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, souvent les gens achètent moins. Moi, personnellement, j'achète pas de Xbox parce qu'effectivement, je joue sur PC aussi. Donc, en console, je vais plutôt me payer de la PlayStation et potentiellement du Nintendo. Mmh. Et après, je penserai jamais à acheter une Xbox parce que je joue sur PC et que le catalogue est dispo, quoi.
Ouais, c'est vrai. Moi je regrette pas, hein. Enfin, la Xbox One, moi j'ai trouvé ça super. Enfin, la Xbox One, moi je la trouve vraiment très. Enfin, elle est cool comme console, hein.
Ah, après, mais bien sûr, mais par exemple, j'ai un ami qui joue beaucoup, qui a un Mac et qui du coup, lui, a une Xbox parce qu'il profite pas au final des jeux PC. Il est super content de sa console, il joue à plein de trucs. Moi, c'est juste le fait d'être joueuse PC aussi qui fait que je vois pas l'intérêt en fait de me payer une Xbox.
Non, mais c'est ça, un PC plus une PS4 et une Xbox, ça fait beaucoup, tu vois. T'as pas besoin d'être deux consoles finalement. Enfin, y a pas d'exclus qui mérite. Enfin, si tu veux faire un Fable, tu peux le faire sur PC. Après, il y a éventuellement la question de l'équipement de ton PC. C'est-à-dire que oui, la console, elle te permet pour voilà, un prix
de jouer
fixe,
à tous les jeux qui sortent
de jouer
dessus,
à
ouais.
des jeux
que
récents,
le PC, tu... ouais.
même si c'est des exclus, alors que le PC, pour pouvoir suivre certaines sorties, il faut quand même avoir un peu de répondant.
Il faut t'équiper, ouais, carte graphique, machin.
Ou tu peux y jouer, mais souvent pas dans la même qualité que tu aurais pu y jouer sur console.
C'est ça,
ça
ouais. c'est exactement ça.
C'est effectivement parfois mon cas, ouais, sur certains jeux, effectivement.
Ok, bon bah écoute... Est-ce que tu as terminé avec tes news?
Alors non, j'avais encore une petite news. Ouais. Bon, c'est un truc qu'on avait déjà, vous aviez déjà peut-être remarqué de votre côté, mais Micromania a complètement amorcé le
Micromania
la
zing,
fusion zing, zing, Micromania, zing, Micromania, zing, zing, zing. Donc, qui vont complètement transformer l'espace des Micromania.
Ouais.
Et ça va être moitié produits dérivés de séries, de pop culture, de jeux vidéo, de films, moitié jeux vidéo. Donc c'est assez cohérent avec le virage amorcé par la dématérialisation. Mmh. Parce que finalement, des trucs qu'on achetait il y a 10 ans au Micromania, maintenant, qui est quand même pas mal, on passe par du démat. Même moi, j'arrive à acheter du démat ou des boîtes maintenant.
Bah, souvent aussi, il n'y a pas les mêmes soldes, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas les mêmes offres.
Non, mais attends, par contre, si tu fais foutage de gueule, je sais pas, tu achètes ton jeu à 5 euros moins cher parce qu'il est en démat.
Ouais, bah oui, oui.
Bah, moi, je trouve ça, franchement, bah, avoir mon jeu en
Et après, il y a aussi des choses qui sont plus dispo, tu vois, sur le démat. Par exemple, le Castlevania que tu t'es payé sur PS3 au dernier solde.
Il n'est jamais sorti sur PS4 pour information.
Bah oui, mais du coup, est-ce que tu vois, c'est des choses qui, à l'heure actuelle, là où t'as eu tes soldes et que tu les as achetées, auraient été encore trouvables en boîte sur PS3 à ce prix-là,
non, je
veux dire,
non,
tu vois,
clairement,
ouais, c'est super compliqué. Donc,
ouais, mais moi, je
en
te
soi,
parle
le marché
actuels,
du démat
enfin,
a, oui.
sortent actuellement.
Pour moi, le marché du démat a vraiment de l'intérêt sur les jeux indépendants ou sur les jeux qui sont pas trouvés en boîte ou alors sur des jeux qui sont anciens et que t'arrives plus à trouver à l'heure actuelle. Après, je suis un petit peu comme toi sur le plan de, je préfère avoir du physique si je peux avoir du physique.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que la tendance est au démat, particulièrement pour les studios indés qui n'ont pas forcément les moyens de payer des versions boîte à la sortie.
Ouais, bien sûr. Mais je prends un exemple tout bête d'un des chroniqueurs de la chronique. Oh. Je parle de Zil.
De Zil.
De Zil, par exemple, tu vois, on a eu un petit débat en disant voilà, bah, revente à Xbox One pour passer sur une PS4. Ouais, mais ça me fait chier parce que j'ai pris plein de jeux en démat et je peux pas les revendre. Techniquement, il n'y a pas de valeur. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revendre ta console avec un disque dur intégré, avec plein de jeux, mais finalement t'as pas de physique.
Non mais on en parle de la valeur des jeux. T'as vu à combien tu revends un jeu 6 mois, 7 mois après sa sortie?
Non mais
quand
bien
même
sûr,
une dévaluation assez monstrueuse. Enfin,
même juste quelques semaines après sa sortie.
Non mais c'est
hein.
ça. C'est...
Ouais, c'est vrai.
Enfin vraiment, si tu veux le vendre et te faire du pognon, c'est les deux premières semaines derrière et encore.
Même pas.
Par exemple,
tu
Micromania.
Perds au moins 25%.
Voilà, comme une voiture. Il va te le reprendre 40 euros là où tu l'auras payé 70 et torché en une semaine.
Fort possible, bien sûr. Ouais. Mais bon, après c'est le marché qui veut ça.
Clairement. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, arguer de la valeur marchande des jeux, à moins de garder certains jeux sous blister pour spéculer comme un petit cochon quand ce sera le moment, les valeurs, les jeux auxquels tu joues tous les jours, c'est pas ces jeux-là que tu revends et sur lesquels tu te fais du pognon.
Non, on est d'accord.
Et donc voilà, d'ici 2022, 430 des magasins seront complètement micromagnazing à travers la France.
Ouais.
Yeah. Donc, moitié produits dérivés, moitié jeux vidéo.
Pour vous donner un exemple,
est déjà plus ou moins le cas. Hein.
Le magasin justement rue du 22 novembre, donc on fait un petit
salut Thomas,
voilà à Thomas à toute son équipe
comme chaque semaine,
qui sont effectivement comme chaque semaine.
Je suis passé le voir, il était en galère aujourd'hui.
Avec quoi, la sortie de Call of Duty ou
Ouais, tu m'étonnes.
Pas que ça, mais ouais quand même.
Mais ouais, donc eux sont passés effectivement micromagnazing où il y a quasiment, je vais pas donner 50%
de l'espace du magasin
qui sont passés justement zing et c'est je sais pas, moi je trouve que c'est, je vais pas dire que c'est choquant, mais techniquement pour un magasin qui est censé vendre du jeu vidéo, ça me fait bizarre de voir de la pop, enfin des figurines pop, machin et tout ça.
Surtout qu'ils vont un peu dans tous les sens et ça va un peu à l'encontre de leur image de spécialiste qu'ils veulent se donner depuis quelques années.
Ouais,
bien
sûr, bah ouais, mais techniquement il y a plus personne. Enfin, après,
non, mais le problème c'est que
c'est ça en fait.
C'est que comme la Fnac, en vérité, moi j'ai
l'électroménager maintenant.
Bah oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les activités sont obligées de se diversifier. Donc moi, je bossais anciennement à Virgil, qui on le rappelle est un magasin
RIP.
Voilà,
qui a fini
toute la chaîne
tech,
a fermé,
RIP.
Qui était un magasin culturel. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, les gens, déjà, ça se comprend, cherchent le moins cher possible. Ouais. Donc comparé à certaines grosses enseignes, ne serait-ce que type Auchan Leclerc qui achète méga en gros, donc qui se retrouve avec des prix beaucoup moins chers et peuvent se permettre de vendre aussi des produits moins chers, de faire des promos, à l'heure actuelle les gens avec internet, avec les grandes surfaces, etc. sont à la recherche des choses les plus accessibles et le moins cher possible.
Bien sûr, bah oui.
Donc les magasins culturels sont en galère, il faut le dire, et du coup bah, ils cherchent à se diversifier parce qu'ils n'ont pas le choix en fait pour survivre.
C'est
malheureux mais...
Bah surtout s'ils sont trop spécialisés et
Oui oui, d'autant plus ouais.
Ah tiens, j'en ai reçu un petit message justement de Thomas qui est donc le responsable du micro.
Bisous Thomas, encore en vie,
centre-ville donc rue du 22 novembre. Qui me dit le produit dérivé est en augmentation constante alors que le jeu vidéo stagne.
Ouais, bah oui. Voilà, mais en plus voilà, on en parlait après, du démat aussi, ouais, hein, qui est encore une autre forme maintenant sur le jeu vidéo. Voilà,
Alors après il faut quand même garder à l'esprit que un supermarché par exemple, effectivement il va te proposer un jeu à 50€ à la sortie, ouais. Mais lui il marche sur tout le reste, donc il s'en fout dans l'absolu. Ouais. C'est-à-dire que même s'il achète en gros au même truc, il exactement. Va quand même pouvoir baisser la marge. Elle est complètement à sa volonté, alors qu'un spécialiste qui fait que du jeu vidéo, il vend que ça. Le mec qui vend un jeu vidéo à 50 balles, plus des tomates, des trucs. Il y a la centrale d'achat, effectivement, mais il y a l'aspect large qui n'est pas réparti.
Janelan a 100% raison. C'est-à-dire que justement, quand je bossais chez Virgin, là, je peux te le dire, j'avais des listings quand je faisais mes inventaires avec les marges, etc., qu'on faisait sur les choses. Et les consoles, les marges, elles sont à 0,02%.
Non, mais tu ne gagnes pas sur...
En vendant une console, tu te fais rien, vérité. Si tu ne vends pas une manette ou même les jeux, c'est assez ridicule. En vérité, c'est les accessoires qui font potentiellement de la marge au magasin. Et éventuellement les extensions de garantie ou ce genre de choses.
Sinon, faut vendre du vin. Le vin, j'avais un sommelier, il était à COF 17 sur une bouteille. Il vendait 17 fois le prix de la bouteille.
Ouais, mais
la chronique
pas
du bourré, c'est ce soir avec Raphaël. Merci.
Bonsoir.
Non, mais c'est pas pareil. Le supermarché, ils vendent plein de trucs, donc il peut payer ses employés. Le spécialiste de jeux vidéo, il fait que du jeu vidéo. Il marche que sur ça.
On connaissant un petit peu de près, de loin, les hypermarchés. Aujourd'hui, vendre un jeu, je donne un exemple, Call of Duty ce soir par exemple. Aujourd'hui, Call of Duty, les mecs qui vont acheter Call of à Auchan, c'est les mecs qui sont potentiellement acheteurs d'un autre produit alimentaire.
Oui,
c'est un package.
Bien sûr.
On va te vendre le produit le moins cher pour attirer le masse de monde, quitte à faire une marge zéro. Par contre, techniquement, tu fais une marge zéro, ok, mais par contre, le mec qui va s'acheter un paquet de chewing-gum ou une bouteille de coca, et ben c'est là où tu vas gagner de l'argent.
Mais du coup, c'est souvent les personnes qui ont des familles aussi.
Bah aussi, il va faire une soirée Call of, il va acheter quoi, du saucisson. Là, il fait une marge de ouf. Il va s'acheter des chips, un truc, popcorn, coca.
Truc tout bête. T'attends trop la sortie d'un jeu. Les jeux, ils sortent à 8h du mat dans les supermarchés.
Ah bah oui, bien sûr.
Micromania, c'est 10h.
9h. Oui, non,
mais que ce soit dans les galeries potentiellement.
J'ai fait des ventes Call of Duty où on annonçait officiellement donc la fin des ouvertures de magasins type Micromania, donc spécialisés, donc je parle de la même galerie, c'est à Auchan et le Kirch.
Mais là d'ailleurs je crois qu'il y a eu une nocturne pour le dernier Call of Duty.
C'est exactement ça. Donc on attend la fermeture d'un magasin Micromania par exemple qui se situe dans une galerie marchande type Auchan, pour vendre du Call of à partir de 20h.
Ah oui, voilà.
Comme ça, il n'y a zéro concurrence. Et ça, c'est ouf comme.
Ils n'ont pas le choix parce que c'est Auchan qui gère la galerie, c'est eux qui leur donnent les heures de fermeture. Donc les mecs, ils peuvent même pas.
Ou même confirme que lui aussi, il a fait de nocturne hier. Donc finalement,
Il était costumé.
Il est allé faire la nocturne à Auchan.
Ils font toujours des nocturnes pour les Call of, de toute façon, dans les
Micromania. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle d'une super animation que j'avais faite à Auchan, Ilkirch, si mes souvenirs sont bons. T'étais là, toi?
Non.
Tu lèves ta main tout à l'heure.
Mais en fait, je voulais juste annoncer ma news.
Mais on n'a pas fini.
Oui, j'ai fait venir justement une équipe.
Les gens. Alors, on est d'accord, Jeanne-Hélène a presque parlé pendant une heure à elle toute seule.
C'est pas vrai.
C'est vrai. Ils ont fait venir une équipe qui font du airsoft et qui sont habillés en commando, machin. Et ils ont fait une super animation. Limite, ils étaient proches, ils étaient à deux doigts de lancer des fumigènes
dans la circonstance actuelle, tu peux plus faire ça. Hein. C'est fini.
En fait, ils ont fait une espèce d'opération commando dans toute la galerie pour faire ramener les jeux dans le magasin, livrés par colis. Enfin, c'était un truc de dingue. J'ai jamais vu une animation aussi folle pour un magasin comme un Auchan, quoi.
Alors, je...
Oh, tu rigoles.
Je tiens...
Je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire.
Ok, okay. Bah dis rien, alors.
Parce qu'on est à la radio.
Dans la blague salace.
Petite anecdote épique que je tiens d'un mec avec qui je bossais à l'époque, il y a longtemps, mais qui se rappelle d'avoir vu des gens qui sont venus en roller le matin de la vente de la PS2 pour glisser sous le rideau du Auchan pour aller acheter des PS2.
Ah bah si je te raconte comment moi j'ai fait les premiers jours de solde dans des galeries marchandes, tu pètes un plomb. Les mecs ils sont en train de... Le rideau est ouvert à 30 cm, j'ai jamais vu des mecs glisser sous 30 cm de grillage. Hein. Ah mais moi c'est choquant.
C'est ça.
On parle pas de la frontière avec le Mexique.
Et se frapper à coup de magnétoscope. Ah moi j'ai vu des trucs vraiment dégueulasses en hyper, hein, c'est hallucinant. Mais bon bref.
Un peu comme le Black Friday, tu vois.
C'est exactement ça.
T'as vu les vidéos Black Friday? C'est des malades.
Ouais, les mecs sont des fous. Mais bon bref. Est-ce que tu as terminé, Jeanne?
Et oui, j'ai enfin terminé mes news. Ouais. Vous pouvez passer à la suite.
Moi, je voulais peut-être enchaîner avant, vu qu'on parle de Call of. Ben, je voulais parler de news. Ben, c'est Call of World War 2 qui est sorti. Mais bon, là, c'est annoncé, quoi. Et ben voilà, donc le jeu a commencé avec un mode story, 9 maps assez grandes.
Il s'appelle comment ?
World War 2.
Ah, ils ont fait simple pour une fois.
Ouais, et ils sont revenus dans le passé, tu vois, ils ont arrêté les Infinite Titanfall Destiny là. Ouais, ouais, c'est ça, Seconde Guerre mondiale. Et en gros, donc j'ai regardé un peu, j'ai pas acheté le jeu, mais j'ai regardé un mec qui a streamé toute la journée, il a fait 24 heures non-stop là, un malade, assez bon joueur. Les maps sont assez grandes, t'as 9 maps déjà pour le multi.
9 maps.
Bah, par rapport à Destiny 2 qui est sorti là où t'as
quand même une pense,
mais Call dans un mois, voilà. Ils te vendent 5 cartes pour 15 euros.
Exactement. Voilà, mais c'est, ils ont déjà lancé le trailer justement pour le premier DLC. T'as le zombie mode qui est de retour.
Donc, ça, c'est cool.
T'as les zombies nazis qui viennent t'attaquer et tout.
Ça, c'est un mode qui a toujours très très bien marché.
Ouais, ouais,
ah, mais clairement. Hein.
Alors, et moi, je suis pas forcément remettent, très attiré par la licence. J'avoue que quand j'avais joué à un vieux là, le premier où il y avait le mode zombie. J'ai bien kiffé, ouais.
Bah celui-là, justement, marrer, et mon pote, il m'a dit qu'il a acheté. Il a dit, il fait encore plus flipper. Genre, t'es en train de courir tout droit, et là, bah, t'as un monstre qui débarque, t'es là, t'es oh putain.
Ok, un peu plus screamer. Plus... Parce ouais, que moi, voilà. Celui auquel j'avais joué, c'était très défense, quoi. T'étais dans une maison, fallait.
Ouais, c'est ça.
Tout barricader, etc.
Là, il m'a dit, il a vraiment flippé. Hein, il s'est chié dessus. Okay. Genre, il t'attaque vraiment, cool, quoi. Hein. Mais vraiment, c'est bien, ils l'ont bien fait. Il m'a dit aussi que dans le mode campagne, au début, tu commences, donc c'est le débarquement allié. 44 quoi, donc un peu à la Medal of Honor, comme à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, sur PS2. Et voilà, le jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide, et il retourne à la base quoi, retour aux sources, ça fait plaisir, parce que c'est ce qu'on veut des Call of. Parce que des Call of où ils sautent sur les murs, ils courent sur les murs, c'est bon, on a Titanfall pour ça. Où ils tapent des points pour dans le sol pour faire un électrochoc, ben on a Destiny pour ça. Voilà, Call of, faites du Call of, c'est tout.
Du Call of.
Du Call of, pardon, Call of. Sorry, Call of Duty. Et donc voilà, donc Call of Duty qui est sorti
faire,
aujourd'hui. Je me tâte à l'acheter. Je me tâte. Vraiment, à voir. On va voir ce que ça donne. Vous, vous allez l'acheter ? Quelqu'un va l'acheter ici ?
Non, personnellement, je ne pense
pas. Waouh, c'est un non.
Okay. Si, mais, enfin, je pense que...
Non, mais comme dit moi, c'est vrai que les FPS, c'est pas trop ma cam. Ou alors, il faut que ce soit des FPS avec une trame narrative un peu sympa ou un délire un peu... voilà.
Tu vas
sauver
la France ?
J'ai aimé les Left 4 Dead ou Warhammer Vermintide, des trucs comme ça. Mais les jeux de guerre brute, pure, ça m'attire pas plus que ça.
Avec Gilles, on a tellement retourné Call of.
Gilles, qu'on salue d'ailleurs, qui nous
salue. On pour dire
Modern
que
Warfare 1
Modern Warfare 2. Moi, tu sais, moi, je suis pas. Ouais. Pour moi, FPS, qui suis un ancien joueur de CS, CS 1.6, clavier, souris, tu peux pas faire mieux. Et un jour, on m'a dit, tiens, essaye de jouer avec, avec une manette. J'ai fait,
j'arrive pas à jouer au FPS sur console.
Et ben, franchement, tu sais quoi, j'ai commencé à prendre goût à la manette et j'ai tellement, quand je dis tellement retourner le jeu, je ne pensais pas qu'on pouvait jouer autant d'heures en si peu de temps.
Vas-y, fais-nous rêver, combien d'heures
jeu, il a
ah
joué
bah,
deux heures
simple,
en une heure.
J'ai joué, je me suis arrêté de tête, hein, de tête. Je me suis arrêté sur Modern Warfare 2 à 28 jours de jeu. Calcule, donc tu fais 28 fois 24.
Alors, comme on est mauvais en calcul mental,
tous
on
les
va
jours.
Le faire sur et
le mec, il n'a pas dormi pendant un mois.
Non, mais non, mais en fait, ouais, il te compte le nombre de jours que tu as joué à Call of.
Non, mais
je me suis arrêté
à 28
jours.
Le nombre de jours où tu t'es endormi sur le même boss,
en sachant que techniquement...
672 heures.
Ouais, bah voilà. En sachant que le jeu, je l'ai pris genre 8 ou 9 mois après sa sortie. On
et
a
ça,
vraiment c'est... joué comme des oufs et ça nous a vraiment donné envie de continuer à jouer à Call of. Quoi.
Et c'est admirable de commencer un Call of 8 mois après la sortie.
Call of.
Ouais, bah clairement, parce que c'est, le niveau est déjà très hard. Parce que là,
c'est ça. Mais moi, ça veut dire que toi et Gilles, vous remettez le couvert là.
Bah, 672
heures
ça.
De jeu.
Alors c'est simple, c'est très simple avec Gilles. On s'est toujours dit, bon bah voilà, de toute façon, nous on a toujours aimé Call of. On veut y jouer, On est passé tous les deux sur Xbox One. On a joué
sur PS4.
On a joué, j'ai acheté Advanced Warfare, donc un des derniers qui est sorti.
Oui, où il y avait Modern Warfare en remaster avec.
Non, ouais, t'avais une map, t'avais Knockdown par exemple. Donc j'ai acheté le jeu, et à partir du moment où j'avais compris qu'on pouvait faire du double jump, donc courir sur les murs et faire du double saut, le jeu avait 24 heures, je l'ai remis dans sa boîte, je n'ai plus jamais retouché au jeu. En sachant que le jeu, j'avais payé 120 balles.
Et donc tu l'as pas vendu, tu n'as pas fait du pognon.
Non, parce que je suis con. Non, je suis très bête, tu vois, en plus. Et donc du coup, je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi, Call of, c'est fini. Et là, Gilles m'a relancé en disant, ouais, mais t'as vu, il y a World War qui ressort, c'est retour aux sources, on peut y jouer. Je lui dis, ouais, mais le problème, c'est que techniquement, moi je joue sur PS4 et toi tu joues sur Xbox. Et ben aujourd'hui, c'est payer une Xbox, c'est payer une PS4 justement pour jouer à.
Ah.
Donc à mon avis, on risque de ne plus avoir d'émission de Chronique Geek. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui présentera l'émission. Ça ne sera plus moi parce que après le boulot, j'aurais envie que.
On t'a perdu.
Moi, je peux la faire, mais je joue à Mario en même temps. Je vous préviens. Vous allez entendre.
Tout est faisable. Tout est faisable. Tout est faisable. Est-ce qu'il y avait autre chose ?
Oui, bien sûr. Alors je vais parler de Destiny 2.
Okay.
Oh, oh tu, dis donc, Raphaël qui parle de Destiny. Quelle surprise.
Quel hasard.
C'est un peu comme moi qui parle de Fury ou d'Ori en fait.
Non, non, de Mass Effect.
Ou Mass Effect. Non, quand même, sur le dernier, je me suis un petit peu calmée. Hein. J'étais un petit peu déçue.
Avant... D'ailleurs, en parlant de Mass Effect. Non, mais voilà, Destiny 2. Donc la semaine dernière, j'ai annoncé sa mort et tout, ce qui est le cas. Mais il tente quand même de lancer les premiers DLC. Donc, premier DLC qui sortira le 5 décembre prochain, La Malédiction d'Osiris. Avec plus d'histoire, plus d'assaut, plus de stuff, plus de tout, enfin voilà, on espère. Un raid, alors c'est annoncé un raid et au final apparemment il y a des rumeurs comme quoi il n'y aurait pas de nouveau raid, ce qui est assez traumatisant parce qu'on attend que ça. Le raid qui est en ce moment c'est de la merde, désolé hein, je le dis clairement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, Destiny DLC, le DLC de Destiny qui sortira le 5 décembre. Je vous tiendrai au jus bien sûr.
Parce que okay. Tu seras au taquet et tu vas tout faire.
Ah bah j'ai pris le season pass, donc j'ai plus le choix. Mais c'est bon, ouais, j'ai fini.
Vas-y, ok, toi, bah écoute, Elsa. On passe à Elsa.
Alors, bah moi je vais attaquer avec les jeux PS Plus de novembre. Yeah. Ouais. Donc on a actuellement 4 titres proposés sur la PS4. Donc on a Bound, qui est à la base un jeu qui est issu d'une collaboration entre Plastic Studio et Sony. Donc notamment le studio Sony Santa Monica. Pour ceux à qui ça parle,
ah,
c'est
oui.
God of War.
Exactement,
par exemple, ouais. Qui est un excellent jeu. Alors c'est un jeu plateforme 3D qui est un peu, enfin je dirais pas contemplatif parce qu'il y a quand même de la plateforme et des choses à faire, mais c'est très poétique en fait dans la thématique. On aborde un petit peu la mémoire, la façon dont il faut se replonger dans la mémoire pour la reconstruire. Donc voilà, c'est très joli graphiquement. C'est un jeu
gratuit.
De plateforme 3D, comme on disait, gratuit, enfin gratuit entre guillemets si vous avez le PS Plus, donc soit si vous payez votre abonnement tout de même. Mais voilà, qui a été en tout cas très bien reçu par la critique. On a aussi par ailleurs Dungeon Punks, qui est un RPG d'action, qui se joue à plusieurs. Il y a un mode local joueur contre joueur, JCJ, avec des arènes qui se jouent jusqu'à 2-3 joueurs. Et aussi un mode campagne, en fait, on va dire histoire-aventure, qui se joue solo ou jusqu'à 4 joueurs. Et on y incarne des héros mutants, il y en a 6 différents, voilà, ça a l'air assez bourrin, en mode RPG 2D, vu sur le côté à l'ancienne.
Ok.
Et voilà, ça a l'air un peu bourrin, on y casse des bouches, a priori.
C'est gratuit.
Pareil, si on a le PS Plus, c'est gratuit.
Alors, si je peux me permettre, moi, ce que je conseille à tout le monde, ce que je fais, c'est de... pré-télécharger les jeux et au pire vous les supprimez, mais au moins ils sont
dans
votre bibliothèque.
Enfin, il y en a certains où tu peux directement faire ajouter au catalogue sans les installer, et d'autres où je ne sais pas pourquoi t'es obligé d'installer, enfin de lancer l'installation, t'annules après, tu les as dans ta bibliothèque.
C'est ça.
Voilà, on en parle
au moins histoire de les avoir gratuits, parce que vous pouvez retourner sur le PS Plus, rechercher les jeux et du coup il y aura marqué déjà acheté, et là vous avez juste à le retélécharger.
Et on peut faire pareil normalement avec tout, hein, les jeux PS3, les jeux PS Vita, ça reste stacké dans la bibliothèque. Tant qu'on est abonné au PS Plus, on peut y rejouer plus tard.
Vous pouvez même acheter si vous n'avez pas le bon support en fait. Si vous êtes sur PS4 et que vous achetez un PS Vita qui est offert par le PS Plus, vous pouvez quand même l'ajouter à votre bibliothèque sans le télécharger, forcément parce que vous ne pouvez pas, mais vous pouvez quand même l'enregistrer pour le futur.
Ouais. Et du coup, sur PS4, on a aussi Worms Battlegrounds, donc une licence bien connue.
Eh, là, je suis au max.
Est-ce que c'est les verts?
Alors, ben, c'est ça. Donc, c'est pour rappeler, hein, Worms, donc c'est une licence. Là, c'est pour le coup, c'est 3D. Même si c'est une vue sur le côté, c'est un peu 3D. Mais donc, un jeu un peu barré. Celui-ci était sorti en 2014 sur PS4.
Tu peux nous rappeler comment ça se joue, un Worms ?
Oui, alors, un Worms, du coup, c'est vu sur le côté. On a des armées de vers. Donc, nous, on contrôle notre armée de vers. L'IA, ou le joueur adverse, contrôle son armée de vers. Hein, donc, vers de terre, hein, on parle bien de ça. Qui s'affrontent. Et il y a un décor destructible. Donc, ça veut dire que quand on va s'envoyer des missiles, des saloperies sur la tronche, le décor va petit à petit se creuser et donc on devrait faire évoluer les stratégies en fonction du décor qui a aussi évolué, sachant que chaque verre a aussi des capacités différentes, donc souvent un peu ridicule.
Si je peux me permettre, juste la particularité de détruire le décor, c'est que en général il y a de l'eau en dessous. Et quand on tombe dans l'eau, on meurt.
Oui, exactement.
C'est pour
ça que potentiellement, si on fait des mauvaises actions, on peut plomber aussi ses propres verres. en plus de ceux de l'adversaire. Donc il y a souvent des trucs un petit peu ridicules, c'est assez parodique, on retrouve des moutons explosifs, voilà, des nos vers qui ont des armes ou des bandeaux de Rambo. Et voilà, donc c'est un bon plan pour jouer autant en mode solo qu'en mode multijoueur en ligne. Et pour finir sur PS4, on a un jeu qui est compatible VR, enfin qui a même été créé pour la VR, qui s'appelle Until Dawn Rush of Blood. Donc Until Dawn, ça évoquera peut-être quelque chose à certains joueurs de PS4.
Ça fait peur.
Donc un jeu d'horreur avec une trame narrative à conséquence qui était vraiment super sympa, qui reprenait un peu une trame de slasher movie, j'ai un peu de mal, excusez-moi, une trame, donc, de slasher movie à l'américaine, quoi, avec un tueur en série, des jeunes isolés dans un endroit en huis clos, donc ils peuvent pas se barrer. Et là, pour le coup, ils avaient créé un jeu VR basé sur l'univers d'Until Dawn, et qui est un jeu FPS mais sur rail, donc où on est très scripté, où on avance tout seul, et c'est vrai que c'était assez flippant quand même, c'était vraiment créé pour la VR, et c'est intéressant. Pour ceux qui ont la VR, ça peut être cool, ça vous fait un petit jeu en plus. Ensuite, sur PS3,
me permettre, en parlant de la VR là, profitez-en, parce que là, il reste quelques jours encore, une petite semaine même pas. Il y a Riggs en VR qui est gratuit sur le PS Plus. Donc, c'est le jeu de combat de robots en VR. Donc, profitez-en, juste téléchargez-le. Au pire, vous n'avez pas la VR, c'est pas grave. Mais si un jour vous l'avez, comme ça, au moins, c'est
toujours 400 euros à dépenser.
Parce qu'il vaut. Il vaut quand même 60 balles encore.
Ah oui, donc c'est quand même une belle opportunité. Ouais.
Profitez-en.
Pareil, ajouter à la bibliothèque, même si on n'a pas le matos pour y jouer à l'heure actuelle.
Voilà.
Ok. Donc, pour rebondir maintenant sur les jeux PS3 du PS Plus de ce mois-ci, on a un jeu de combat qui s'appelle Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic. Je sais pas si ça
me plaît déjà.
Mais a priori, effectivement, c'est très sympa à jouer, c'est assez parodique. On y joue des marionnettes en plastique, en fait, qui sont repris des gros pontes du combat, type Bruce Lee, voilà. Et a priori, c'est possible d'y jouer donc avec les touches, mais il y a aussi une compatibilité avec la détection de mouvement 6-axis de la manette PS4.
Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler du 6-axis. Est-ce qu'on peut me rappeler ce qu'est le 6-axis, s'il vous plaît?
Donc c'est la détection de mouvement qui était incarnée dans la manette, qui était en fait implémentée directement.
Ils nous avaient promis de grandes choses pour ça.
Oui, voilà. C'est vrai que c'est très peu utilisé en fait dans certains jeux. Bah, Until Dawn, justement, on en parlait tout à l'heure, c'était le cas. Il y avait certaines phases de stress où on était supposé ne pas bouger la manette et la manette ressentait si on tremblait ou on bougeait et du coup on était capté par l'ennemi. Par exemple, voilà, ça peut être ça, ou le mouvement
horrible.
Qui est capté directement par la manette, voilà. Donc ça, a priori, ce jeu est compatible avec. Il y a un multi jusqu'à 4 joueurs et les combats du coup ressembleraient un petit peu à un Super Smash Bros Brawl. On va y arriver, voilà, il faut juste prendre le temps d'articuler. Mais
vas-y,
voilà, donc des combats un petit peu chaotiques et assez humoristiques et des trucs bien sympathiques. Et sur PS3, on a aussi, et ça va faire plaisir aux anciens, aux vieux de la vieille,
les vrais gars,
on a R-Type Dimensions.
Oh
ah, ouais.
Et là, ça
qui,
me fait
coup,
plaisir.
Du coup, est une version qui compile les deux premiers épisodes de la série R-Type, soit le premier, si je dis pas de bêtises, qui était sorti en 1987, mon année de naissance.
Exactement, sur Master System.
Ouais, je suis 87, je suis vieille. 30 ans cette année, gars.
Il faut jamais dire ça en public.
D'ailleurs, tiens.
C'est pas grave, j'assume.
J'ai un petit doute sur le... J'ai lancé 87 parce que moi je crois que mon premier R-Type était sur Master System. Maintenant j'ai un petit
doute. Oui, c'était sorti ensuite sur console. De ce que j'ai vu,
ouais,
c'est 1987 sorti sur borne d'arcade,
ouais,
et
ça,
peu
ouais.
de temps après ça
et
a
je crois
suivi
très peu
sur
de temps
console,
après
ouais.
en 88 ou 80 non 88 je dirais sur Master System. D'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'avais fait sur Master System. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai passé
moi,
des
c'était
heures
sur Super NES,
jeu.
Ouais, un des premiers jeux que j'avais. C'était complètement foufou, qui était très dur d'ailleurs. Hein. Donc un shoot 'em up pour rappeler à ceux qui sont un petit peu plus jeunes ou qui n'auraient pas connu cette licence épique. Mais oui, voilà, qui là sur PlayStation, c'est la version remasterisée hein,
ouais,
qui
ça.
Est proposée. Donc on le
ça,
rappelle
c'est
juste. C'est gratuit sur le PS Plus. Voilà, donc scrolling horizontal, on y joue un vaisseau spatial dans l'espace qui affronte des ennemis aliens, robots. Voilà, et c'est bien bourrin, c'est bien difficile. Et c'est, donc c'est la compilation des deux premiers épisodes. R-Type Dimensions.
Top. Moi, je suis au max. Là, je suis refait.
Alors, je me doutais que ça allait te
plaire. Ah, mais là.
Je suis un peu déçu parce que t'as commencé par dire R-Type et moi, je pensais qu'on allait parler de Airblade sur PS2. Est-ce que quelqu'un te se rappelle de ce jeu?
Non, je ne connais pas du tout.
Non?
Airblade, non, je veux rien dire.
Non? Non, personne. C'était un super jeu de simili-skate. C'était des hoverboards, en fait, un peu à la Retour vers le futur.
Ah, maintenant que tu me dis ça,
c'était,
oui, ça me dit quelque chose.
C'était une démo qu'on n'avait pas forcément en jeu, qu'on possédait, comme on n'était pas encore adulte et qu'on pouvait pas acheter tout ce qu'on voulait. Mais
avec toutes ces démos de T-Rex.
C'était un super simili-Tony Hawk de l'époque, quoi.
Et d'ailleurs, on parle de démos, là. Vous vous souvenez, dans le magazine PlayStation, il y avait à chaque fois un CD avec des démos de jeux.
Oui, oui, tout à fait.
J'en ai encore chez moi, si quelqu'un les veut, d'ailleurs.
Moi, je me souviens vraiment de l'époque démo PlayStation 1, moins PlayStation 2. Mais,
un mois, ouais, plus PlayStation 2. Mais ouais, c'était génial ça. Pourquoi ils font plus
c'est
ça
trop maintenant? Jeune, c'est pour ça.
C'est triste.
Parce que tu peux les télécharger directement. T'as pas besoin d'avoir une galette pour
oui.
se les
bah,
c'est ça, exactement.
T'as internet, tu peux aller choisir tes démos.
Ou de regarder directement des vidéos streamées du jeu, etc., etc. Et juste pour finir avec le PS Plus du coup du mois de novembre, il y a encore les jeux PS Vita. Il y a deux titres proposés ce mois-ci. Donc les Chevaliers de Baphomet 5. Broken Sword 5, voilà.
Ouais, grave.
Donc épisode 1 et 2, c'est-à-dire le jeu complet au final qui était sorti
d'accord,
effectivement
ouais.
en deux parties. Donc on y retrouve comme d'habitude les deux protagonistes principaux, George Stobart qui était un juriste et Nicole Collard journaliste pour comme d'habitude se lancer dans une enquête et voilà, c'est un jeu qui est point and click et qui était réputé particulièrement pour son humour et une narration assez sympathique voilà dans le milieu. Et aussi Dungeon Punks dont je parlais tout à l'heure qui est aussi dispo sur PS4, le fameux RPG action jouable jusqu'à 4 un peu bourrin.
Là, il le met vraiment très très bien avant Noël
sur
hein.
Sur deux consoles effectivement. Et il a eu des plutôt bonnes notes hein, il a été très bien reçu, le graphisme fait un peu rétro kitsch. Il a l'air d'y voir plein de sang, enfin vraiment un truc, voilà. Ça a l'air de rappeler plein de souvenirs, comme dit encore une fois au vieux de la vieille.
Bon bah parfait, bah écoute, merci pour ces news. Je vous propose de faire une petite pause musicale, et puis ensuite on invitera un invité de Marc, et quand je lui parle de Marc, il va venir justement nous parler
de sa
marque. Exactement. On va accueillir Aurélien, qui va venir nous parler de 8BitDo ou 8BitDo, et puis on se retrouve dans quelques secondes, sur le 91.9 FM. Vous écoutez toujours Workless Playmore. À tout de suite.
91.9 FM à Strasbourg.
Et nous sommes de retour sur les ondes du 91.9 FM Radio RBS encore une fois. Et vous êtes connectés sur l'émission Workless Play More by La Chronique du Geek. Et on reçoit, comme dit, un invité d'exception ce soir. Il s'appelle Aurélien et il est distributeur France d'une marque que vous avez peut-être déjà vu sur... désolé, c'est chaud, j'ai vu
t'as fait faire des accidents sur la route là.
J'étais au taquet, pardon. Et il est donc distributeur France de la marque 8bit do. Salut Aurélien, comment tu vas?
Salut. Bah salut à tous, bonsoir.
Voilà, donc heureux d'être là avec vous. Bah merci, ça fait maintenant c'est nous, on est super content de te recevoir. Et surtout moi ce qui me plaît le plus, c'est que tu es justement donc distributeur de cette fameuse marque 8bit do, mais tu viens de Strasbourg.
Ah oui, ce qui facilite
Un peu le
facilite forcément la venue.
Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup aujourd'hui tu es venu avec pas mal de petits gadgets. Donc on a proposé donc sur la page Facebook de RBS, on a pris une photo pour voir le type de produit. Alors qu'est-ce que 8bit do?
Donc 8bit do,
ouais, pardon.
8 pour ceux qui veulent franciser.
Ouais, on va faire les Américains ce soir.
Mais la vraie marque, enfin le vrai nom de la marque, c'est 8bit do. Si on le prend à l'international, et vu que comme Nintendo, toutes ces marques c'est international, si on peut dire, on va le prononcer de la manière internationale.
Ouais.
Donc 8bit do, oui, donc c'est des gamepads compatibles multiplateformes. Donc ça peut être ordinateur, console, téléphone. Je vais ramener différents modèles. Donc ça part du vieux modèle la NES ou la Famicom pour ceux qui ont connu, Super Nintendo européenne ou américaine. Et puis des modèles plus évolués qui reprennent les couleurs de la Nintendo ou une version dorée pour le FC30 Pro, qui là sont déjà plus adaptés pour jouer à la Switch, à des jeux comme Zelda ou n'importe. C'est juste qu'il n'y a pas les fonctions gyroscopiques encore, mais les modèles arriveront d'ici décembre. Là. Les derniers modèles compatibles 100% Switch vont sortir pour décembre.
Donc si on reprend en fait ton concept, vous reprenez en fait un peu, enfin la marque entre guillemets, reprend des modèles de manettes déjà existantes sorties sur console Nintendo à l'époque. Pour ensuite les rendre entre guillemets compatibles sur tous les systèmes qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire sur Windows,
mais une grande
grosse partie sur Windows, donc aussi bien PC et mobile.
Windows, Mac, Linux,
voilà.
Android principalement, parce que iOS c'est un peu plus difficile si on peut dire.
Ouais.
Après bon, macOS par contre il y a aucun problème, c'est vraiment juste iOS qui à cause faut jailbreaker, c'est une procédure qui peut être
un peu
complexe,
compliqué, ouais.
Et tous les jeux ne fonctionnent pas 100%, alors qu'avec Android il y a une compatibilité qui fonctionne vraiment relativement mieux. Donc ensuite voilà, console Nintendo Switch, PS3, Wii.
Ouais.
Si j'oublie rien, Steam aussi, c'est compatible.
Ouais, donc ça c'est des manettes qui se connectent. Alors il y a deux possibilités. La première c'est de brancher donc en version filaire.
Voilà. En USB ou
en
Bluetooth,
USB.
Ouais.
Donc là, ça reconnaît automatiquement par... Je prends l'exemple de Windows, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment 95% de la population qui est sur Windows, qui permet justement donc de brancher une manette, je peux pas dire quelconque, mais quitte à avoir quelque chose d'un produit de qualité, mais passer par ce type de produit-là, parce que là, j'ai pu tester très rapidement sur la manette, parce que nous, on se connaît depuis quelques mois déjà, parce que je suis vos produits de très près, parce que c'est de la boucherie, clairement, quoi. Autant le dire comme il faut.
Bah, la qualité est là, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Donc, on a juste besoin de connecter en USB son pad et c'est reconnu automatiquement.
Bah, généralement, oui. Alors, si vraiment, il peut y avoir une combinaison de touches. Mais pour l'USB, normalement, non.
Normalement, c'est automatique. Après, c'est vrai que sur... Alors, deux possibilités de connecter ce fameux pad. Donc, la première solution, c'est de brancher en port USB si vous êtes équipé d'un Mac ou un PC.
Voilà. C'est ça, ouais.
Ensuite, le gros plus, c'est que vos manettes sont techniquement compatibles Bluetooth.
Bah, elles sont toutes compatibles Bluetooth.
Voilà.
D'avoir un dongle Bluetooth.
Ouais, c'est ça.
Et c'est parti.
Et puis alors, on parlait de bonne qualité, mais au-delà de la bonne qualité, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est quand même des manettes à mort pour les nostalgiques. Enfin là, j'ai une manette
complètement.
Qui a le design d'une manette de NES.
D'une manette de NES. Voilà, vous ne le voyez pas.
C'est super, quoi. Enfin, voilà, au niveau de la sensation des touches, c'est assez similaire. Voilà, au niveau, il y a des gâchettes aussi au-dessus, donc ils sont rajoutés en plus. Donc c'est vrai que le design ressemble, mais elles sont quand même adaptées au final aux besoins des manettes modernes.
On est en train d'en tester 2-3 là justement.
Ah ouais,
c'est
super intéressant, puis ça a l'air méga solide.
Là pour l'instant, c'est la partie off que vous ne voyez pas
chouette,
sur l'émission.
Voilà.
Donc voilà.
Bah, nous, on en a
qui
durent depuis plus de 3 ans maintenant, qui sont encore en vie, on n'a pas de problème, batterie ou quoi. Donc à part une défection comme il peut y avoir sur tous les produits rares. Non, c'est un produit de qualité qui dure bien dans le temps. Ouais.
Alors le fait que ce soit Bluetooth, du coup, c'est compatible avec les téléphones,
ouais, c'est
les
ça.
Tablettes. Et donc, moi, personnellement, ça me sauverait la vie pour GTA Vice City parce que c'est vraiment pas un jeu qui a été prévu pour jouer. Enfin, ils ont fait justement un port de San Andreas Vice City et GTA 3 sur Android et iPhone. Et c'est vraiment injouable sur l'écran avec les doigts sur le truc qui fait office de gâchette. C'est vraiment terrible. Donc je pense que ça pourrait me sauver.
En général, les trucs
tester, ouais,
tout est, c'est horrible, hein, tout. Non, mais n'importe genre, quel jeu. Hein,
ouais. Mobile,
ouais. Ouais, les adaptations mobiles en général, c'est horrible. Hein.
Ouais.
Tu sais s'il y a un mode mapping dans le jeu. Pour...
Ouais, je pense que tu peux avoir justement une possibilité de mapping.
Dans GTA, ouais, il y a un mode mapping parce qu'en fait, ça pour assurer la 100% garantie, si tu as un mode mapping dans le jeu, c'est 100% garantie que tu pourras jouer. Et c'est pour ça qu'Android a plus de facilité parce que souvent il y a ce mode alors que
ouais,
vraiment
exact.
Chez iOS que je maîtrise pas forcément trop.
Mais ça, comme dit, c'est le gros avantage de tes produits, enfin de tes produits entre guillemets, parce que c'est pas toi qui les fabrique, on est bien d'accord. Voilà. Tu es représentant France, distributeur France de la marque Elbido. Aujourd'hui, c'est des produits donc comme dit de qualité. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai un blanc. Donc ça ressemble effectivement beaucoup à des manettes qu'on a connu, donc pour les trentenaires entre guillemets, c'est des reproductions de manettes NES, Super Nintendo, Super Famicom, mais il y a encore d'autres produits qui sont revendus par la marque, comme des haut-parleurs Bluetooth qu'on a pu tester lors de Star to Play par exemple, qui ont tourné
spécialement au bar.
Ouais, voilà.
Si vous vous souvenez.
Exactement. Je faisais un petit big up à toi, Raph, à ce moment-là. Où effectivement, donc on l'a pu tester nous en avant-première entre guillemets ces produits qui ont tourné quasiment pendant 4 jours non-stop et qui n'ont jamais flanché quoi.
Non, niveau des basses et tout en général, en plus ils étaient à fond quasiment pendant les 4 jours. Et au niveau des basses et tout, au bout d'un moment, quand le haut-parleur il est trop utilisé, il commence à crépiter et tout, etc. Là, aucun problème. Et même au niveau de la batterie, on l'a très peu chargé. Il tenait quasiment 5 heures, si je me trompe pas, d'affilée non-stop à fond, quoi.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est hallucinant, quoi.
Dans le cube, c'est pas la référence la plus connue ou la plus. Alors, on va avoir un petit article dans le JV Mag qui est sorti là aujourd'hui, qui est en train de sortir, qui va parler justement du Twin Cube. Donc, on est en train de promouvoir ou d'essayer de promouvoir un peu plus ce produit aussi. Parce que, ouais, c'est comme tu dis, c'est un produit de qualité qui n'est pas forcément connu. Et moi, je trouve qu'il est vraiment sympathique. Alors, il faut aimer la couleur, c'est le retour qu'on avait eu par le musée. Certains n'aimaient pas. Mais sinon, voilà. Le Twin Cube, c'est la même chose que le cube, mais en deux. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser en stéréo ou séparément. Si maintenant, tu es avec ta copine, chacun peut en prendre un et partir avec son cube, son Twin Cube et écouter la musique de son côté.
T'as par contre une portée de combien de mètres ? 10 mètres ?
Ouais, c'est ça.
10 mètres.
Ouais. Et en gros, le cube, donc, c'est une enceinte avec il y a deux haut-parleurs, je crois, dedans.
La base, tu veux.
Et ouais, voilà. Et il y a plusieurs coloris et tout. Il y en a un qui est génial, c'est une manette de Super NES.
Ouais, ça, c'est beau.
Donc, c'est un cube avec. Ouais, NES, ouais, NES tout court, pardon.
Ça, c'est le cube, ouais, le gris.
Exact. Donc, sur chaque face, il y a un haut-parleur d'un côté et de l'autre. Il y a une croix directionnelle qui permet, en fait, d'avancer la piste, de reculer, de monter le son et de le baisser. Et c'est vraiment beau. Aussi, c'est une belle pièce à avoir dans sa collection, hein, si jamais.
Ouais,
c'est décoratif et utile.
Exactement, exactement.
Très très beau produit, donc effectivement, on en profitera pour en faire. Comme moi, par contre, il y a un truc qui m'a vraiment, désolé du mot, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il y a vraiment un truc qui m'a excité, clairement.
Oh, elle dit ça.
Bah non, mais faut le dire, moi je le dis avec mes mots, je m'en fous. C'est mon émission, je te le rappelle. C'est
ah bon.
Le c'est le stick arcade. Qui est sorti par Elbido et qui est compatible Switch. Alors pourquoi j'insiste dessus ? C'est qu'actuellement, voilà, il y a une base de trolls entre nous parce que voilà, je parle beaucoup de la Switch. Mais aujourd'hui, la Switch joue à Ultra Street Fighter 2, qui est donc la version qui reprend un peu Street Fighter 2X. On devait jouer avec les pads classiques et c'est une catastrophe.
Avec le Joy-Con, ouais, j'imagine. Que...
Mais moi, je pète un plomb tous les soirs. Je m'énerve. Et heureusement que c'est pas ma Switch parce que sinon, je l'aurais déjà fissuré sur un mur. C'est dégueulasse. Alors, par contre, maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai un stick, entre guillemets, sous les yeux. Techniquement, on va pouvoir reprendre la même base qu'un stick arcade classique. Donc, pour les gens qui jouent vraiment à Street Fighter 2 ou à n'importe quel jeu de combat. Et ce sera compatible Switch.
Ah, pour les puristes du stick arcade, c'est sûr que ça va être une très bonne référence. Qui va être apprécié. Ouais.
Ouais. Et alors donc alors par contre j'ai pas eu le temps de connecter malheureusement le pad à la console. Bah oui, effectivement passer deux musiques c'est très peu pour nous.
Bah c'est fait en 30 secondes si tu veux.
Ouais, je sais mais bon entre faire une émission et
ouais,
tester
et après, tu vas être perdu dans le jeu, on t'entendra plus.
Raphaël, est-ce que tu peux reprendre l'émission s'il te plaît?
Bien sûr, alors bienvenue dans l'émission Raphaël Clément.
En tout cas, ouais, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce produit parce que là, juste sous les yeux, en ayant touché ne serait-ce que le stick est de très bonne qualité. Il n'y a même pas forcément besoin de changer le stick parce qu'il est vraiment très propre.
Ah non, il y a une bonne réponse. Ouais,
voilà, c'est ce que j'allais été.
De nos tests, on est pleinement satisfait.
Et pour vraiment les puristes, on peut effectivement swapper les boutons et le stick arcade. J'ai pas démonté encore parce qu'il est tout neuf et que c'est pas le mien, déjà pour commencer. et je pense qu'effectivement, cette partie-là reste totalement modulable pour les vrais puristes.
Alors, on n'a pas testé, mais on a vu des retours de personnes qui avaient remplacé les boutons par des sanois, ouais.
Ouais, donc voilà, pour les gros puristes du stick arcade.
Publier, c'est que ça doit fonctionner. Je pense qu'ils vont pas s'amuser à publier la photo juste pour dire on a changé les boutons, ouais. Ça marche plus.
C'est deux connectiques en dessous, on fait sauter les boutons
bah,
et puis on les
change. C'est un bouton, c'est on/off.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, bah c'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver entre guillemets pour acheter tes produits?
Alors déjà, ouais, sur Strasbourg, il faut savoir que tous les produits sont disponibles au Pixel Museum. Alors Strasbourg, c'est Schiltigheim du coup. Sinon, par rapport à notre shop en ligne, c'est shop.8bitdo.fr. Vous pouvez très bien commander aussi les produits éventuellement. J'ai pensé à ça aujourd'hui avec la venue à l'émission. Et avec le code Strasbourg, à la fin, vous avez le frais de port qui est gratuit. Et là, du coup, c'est possible soit de les récupérer sur...
Donc c'est toi qui paye le tram qui vient directement chez les clients pour livrer les produits.
Non, on aura soit un point de dépôt, vous pourrez les récupérer, ou soit éventuellement sur rendez-vous, voilà, on peut s'organiser en fonction des déplacements.
Ça, c'est carrément le côté cool. J'ai une question d'un auditeur, donc Gilles. Gilles N, pour pas ne.
Donc, n'hésite pas, tu pourras republier.
Non, c'est pas le même Gilles. Non. Il y a beaucoup de Gilles ce soir, mais c'est pas le même.
Gilles N, c'est quand même un Gilles qu'on connaît, peut-être.
Ouais, bien sûr que Strasbourg le connaît, donc j'y vais. Il me dit, écoute, pour utilisation des formes des manettes Oldies Nintendo, est-ce que vous avez négocié un partenariat avec Nintendo?
Alors là, c'est la firme Shin qui gère tout ça, mais personnellement, j'ai aucune idée. Moi, je pense que c'était une histoire de droit. C'est les brevets.
Ouais.
À partir du moment où c'est périmé, les brevets devaient être périmés sur ces modèles.
Ça passe, ouais, voilà, ça passe du côté oldies, donc techniquement, tu peux l'exploiter comme tu veux. Et j'ai envie de dire, techniquement, ce n'est pas la même manette que la Nintendo, que la NES ou que la Super NES. Pourquoi? Parce qu'il y a des boutons qui sont rajoutés en plus. Donc techniquement, on reprend
exactement.
Une autre technologie.
Les gâchettes, là, par exemple, qui n'existent pas techniquement.
Ouais, voilà.
C'est ça qui fait la différence pour la propriété intellectuelle, c'est que tu vas pas te prendre un procès si t'as des boutons en plus et
ouais, c'est ça.
La forme arrière en fait de du boîtier qui est un peu différent, qui ressemble pas du tout à une manette. Enfin, c'est comme s'il y avait une espèce de boîtier autour de la manette en plus.
Ouais.
Pour la NES par exemple.
La NES, ouais.
Donc normalement, ça doit pas poser de problème de ce côté-là vu que c'est pas identique.
En tout cas, c'est des questions qu'on s'était posées il y a 2 ans quand on avait commencé. Apparemment, il n'y avait pas de problème. Puis on s'est dit que Nintendo, de toute façon, vu que le produit existait déjà depuis 3 ans aussi et que la popularité grandissante se fait, ils auraient déjà réagi, sachant que les produits sont axés Switch maintenant aussi.
Ouais, en plus, ouais.
Parce qu'ils doivent être largement au courant de l'existence de ce produit.
De ce type de produit-là, ouais.
Mais c'est ce que je voulais dire que je trouve assez intéressant, c'est que les manettes prennent justement en compte les touches spéciales de chaque console.
Ouais,
enfin,
les LR et des choses comme ça.
Enfin, plus l'espèce de touche, tu sais, PlayStation Home ou Xbox Home ou retour machin, tu vois.
Donc, dans certains modes, elles servent de raccourci.
Voilà.
À noter parce que c'est pas forcément mis en avant partout dans les notices, mais sur la Switch, voilà, t'as
effectivement.
Capture d'écran et bouton Home qui sont calés sur le S30 Pro, sur les deux boutons en bas.
Voilà, là j'en ai une en main qui a justement tous les boutons qui ressemblent un peu à une manette de SNES, qui fait un peu de lumière, qui est assez mignonne d'ailleurs.
Ouais.
Qui a deux gâchettes par côté. Et qui a ces boutons de capture d'écran et de retour à la Home qui sont assez pratiques finalement. Donc ça fait aussi la différence pour les brevets finalement et les questions de...
De toute façon, le modèle que tu as en main est purement original.
Ouais, ok. Mais il est sympa,
il est inspiré,
joli en plus.
C'est-à-dire au niveau des couleurs ou...
C'est le FC30 si ça vous intéresse.
FC30 Pro.
Ouais, il est assez
ça, c'est,
ouais,
c'est, il est mignon. C'est ce que j'ai surkiffé. Justement,
c'est ce que t'as reçu ça?
Ouais, exactement, ouais.
Et les versions Pro,
c'est
un
choix, hein. Enfin, les manettes, elles sont vraiment sympas.
Ouais. C'est clair.
Pro, ouais, c'est des versions réactualisées, si on peut dire, des anciens modèles avec toutes les fonctions stick analogique et compagnie.
C'est ça.
Et les versions SFC 30 Pro et SNES 30 Pro qui arrivent
d'ici décembre.
C'est les versions Super NES, mais avec des sticks analogiques qui permettent justement L1 et L2, qui permet justement d'avoir toutes les compatibilités pour un jeu PlayStation ou pour les jeux Switch avec le 6 axis move dont vous parlez avant justement. C'est des capteurs gyroscopiques en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, c'est vraiment le produit qu'il faut.
Et le Rumble aussi qui fera les vibrations.
Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils sont sympas, les petits sticks, en fait. Ça change de,
des ah, gros complètement. Ah ouais, ouais, complètement. Moi, je suis tombé amoureux, hein. Clairement, c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce soir, dans l'émission. C'est que ouais, je suis tombé amoureux des produits parce que on s'est connus justement lors du Start to Play 2017. Et il m'a fait un bref test rapide de son produit. J'ai vu la qualité du truc. Je me suis dit, c'est obligatoire. Enfin, c'est un truc à avoir. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement de la charte, enfin, le prix de des produits, entre guillemets, Elbitdo?
Alors, en moyenne, pour ce qui est des NES 30, et les versions Nintendo et Super Nintendo, pour faire plus simple,
ouais,
sont aux alentours de 30 euros.
Ouais, donc, c'est quasiment que dalle, quoi.
Bah,
enfin, c'est que dalle. Non, mais
par rapport à d'autres pads, certains disent c'est cher, mais après, ça dépend comment on regarde la qualité. C'est que si on prend un pad qui vient des Philippines à 3 euros, qui est une copie d'un pad Super Nintendo avec un fil USB, là.
Ouais, non, mais d'accord.
Non, mais au final, si c'est compatible.
On sent que c'est pas du tout la même qualité au niveau du toucher, au niveau du poids, au niveau de ce qu'il y a dedans, quoi. Après,
ouais,
y a pas le Bluetooth non plus. Puis.
Je veux dire, si ce n'est compatible, ne serait-ce que PC, à l'heure actuelle, les manettes PC,
ah oui, oui,
elles
aussi
sont à voilà, 50, 60, 70 balles. Je veux dire, en termes de qualité et de ce que vous proposez, c'est quand même plutôt intéressant, quoi.
Si
en termes
ouais,
de budget, oh ouais, c'est.
Si on prend la Switch encore en exemple, quand on voit le prix d'un Joy-Con,
oui, exactement, ouais.
70 euros plus, des fois, ça fait peur. Alors
exactement,
que là, pour
ouais,
moitié
ça reste
prix,
intéressant, ouais.
En fait, on peut avoir pour le même prix, on peut avoir deux Joy-Pads.
Voilà. Et en ayant au final une manette rétro,
voilà,
adaptée à la plateforme, voilà, avec
un
ce
petit design
aspect
qui
peut sympa, voilà, le design.
Et multi-support, quoi. Finalement.
Et surtout,
oui,
multi-support.
Ça,
ouais.
Ça,
ouais,
ça, c'est vrai que c'est super clairement intéressant, que ce soit mobile, au final, Switch, PC.
Il
ouais
y a le tout petit pad zéro que j'ai pas emmené aussi. C'est le
ouais, que j'ai pris, moi, j'ai acheté celui-là.
C'est que celui-là, il est pratique pour Android, par exemple, pour faire les photos. Tu vois, alors, pour jouer, c'est bien pour une main d'enfant, ou même si tu peux jouer avec des mains d'adultes sans que ce soit vraiment gênant. Mais ouais, voilà, vu qu'il est petit, ça sera pas forcément ce que le plus commun des
oui, ouais,
mortels
ouais
va choisir. Mais du coup, voilà, pour faire les photos avec la capture. Ah, avec le téléphone.
Oui, voilà, oui.
Peut, les boutons activent la photographie, par exemple, pour naviguer dans les menus et tout ça.
Ok,
aussi.
Ouais, donc capture d'écran, photographie, enfin des petites fonctionnalités efficaces, vite fait, quoi,
c'est
avec,
ça, ouais,
avec le stick.
Ouais, moi ça c'est vraiment. Enfin, moi j'ai quand même pas
donc
mal testé.
C'est une autre utilisation, même sans jouer. Par exemple, on joue sur le PC avec son pad et on a besoin de faire 2-3 raccourcis sur le téléphone ou faire une photo à distance sans activer le temporisateur. On peut très bien utiliser la manette.
Et au niveau compatibilité, du coup, par exemple, sur PC, ça peut passer avec n'importe quel jeu Steam ou sans difficulté en fait.
Ouais, ouais.
Ouais, ça c'est super. Ouais, du
ouais
coup,
c'est compatible.
Steam, ils ont vu la compatibilité à 100%.
Ouais, du coup, ça revoit un petit peu à l'heure actuelle en termes de manette. On avait un peu l'exclu Xbox, on va dire, qui était voilà, enfin la manette type
la
Xbox Microsoft au final développée sur PC, qui était la plus commune, on va dire, mais qui est quand même un modèle un petit peu fatos, quoi.
La plus tout terrain, si on peut dire.
Oui, voilà, ouais.
Sur
et c'est vrai que du coup, c'est intéressant d'avoir d'autres modèles qui sont proposés qui permettent d'avoir un petit aspect nostalgie et ouais c'est cool.
Moi je joue un peu à Elite Dangerous, je sais pas si vous commandez, si vous connaissez, c'est un jeu.
Moi j'ai pas joué celui-là non.
Et donc j'ai joué avec les versions pro là et honnêtement j'ai
ouais
fait pour le test, tu vois, pour le défi, je me suis dit est-ce qu'on peut jouer avec un pad NES 30 Pro à Elite Dangerous. Et ben en fait ouais.
Ça marche sans problème.
Oui, ça marche sans problème, mais c'est que même niveau des combinaisons de bouche, parce que c'est un jeu quand même complexe, c'est une simulation de vaisseau spatial donc. T'as besoin de pas mal de raccourcis clavier.
Sur ouais.
Alors, tu peux te faire une bonne config juste avec un pad quand même en jouant sur des combinaisons de touches, par exemple Y plus machin ou enfin. Parce qu'après ça, tu peux faire des combinaisons.
Ouais, tu fais des raccourcis
aussi,
machin, ouais.
Du moment que tu peux faire ton mapping, c'est toujours pareil. Du
ouais, c'est
que tu
ça.
Peux faire ton mapping, tout est possible, si on peut dire.
Comment elle a débuté hein, pour toi cette aventure en fait avec Elbitdo? Tu t'es réveillé un matin, tu te dis tiens, allez, je vais me. Non mais si tu
non,
me racontes
non
ça, moi je te raconte l'histoire de la chronique, c'est un peu pareil. Hein. Moi j'étais bourré à une soirée avec mon pote Gilles et j'ai dit bon allez vas-y tu quoi, on vient on lance un truc et c'est la chronique. Ça fait 4 ans que ça dure, c'est comme ça.
Non mais ça s'est fait petit à petit un peu, enfin directement et indirectement parce que je m'étais mis sur un projet avec les Retropie justement.
Avec Retropie ouais.
J'ai jamais terminé mais du coup ça m'a fait rencontrer les manettes Elbitdo parce que je cherchais à Elbitdo. Parce que je cherchais quelque chose pour meubler justement les petits kits Retropie pour jouer avec, histoire que ce soit joli, parce que le
ouais
kit Retropie est sympa, mais voilà, soit on prend la manette à 3 balles des Philippines et c'est tout pourri, soit. Puis du coup, je découvre ça, et manette à 8-bit-do, Bluetooth, USB, genre je me dis hop, je teste. Puis c'est là que, vu que c'était il y a 3 ans, personne n'était vraiment encore sur le marché, il y avait peut-être un ou deux petits revendeurs en France, donc j'ai commencé à m'installer tranquillement. On a vendu de plus en plus, et donc voilà, c'est comme ça que maintenant on s'est retrouvé dans la position actuelle.
Donc en fait, si j'ai bien compris, à la base, c'est un concept chinois.
Ouais.
Et toi, en fait, quelque part, tu as racheté une sorte de franchise, comme certains magasins, c'est ça pour... Ah oui, d'accord, vous importez, vous revendez. Oui, ok, là. Donc vous êtes collaborateur, en fait, avec Ibido, quelque part, pour revendre leurs produits, quoi.
C'est ça, ouais.
Ok.
Dans le réseau de revente directe des produits.
Et du coup, en France, partout, ou c'est vraiment dans la région Alsace, Strasbourg,
en France,
ouais, c'est cool. Si,
par exemple, Micromania va rentrer des
magasins. Bah ouais, justement,
ouais, voilà, donc vous collaborez avec différents magasins culturels en plus.
Directement,
en France,
mais
quoi.
C'est un de nos revendeurs qui.
D'accord.
Thomas, qui est justement, donc, encore une fois, responsable du magasin Micromania Strasbourg Centre-Ville, qui vient de me dire, effectivement, ils vont rentrer très prochainement la marque Ibido. Il a vraiment hâte. Depuis tout à l'heure, il me dit, mec, j'ai tellement l'air de ne pas être venu, j'aurais tellement voulu tester les sticks en avant en premier. Et les autres manettes, Thomas, t'inquiète pas, ça arrive dans ton magasin dans pas longtemps.
On lui organisera ça bientôt.
Ouais, si exactement. Et puis si tu veux venir à la maison, tu n'hésites pas. Il y a déjà du matos Ibido à la maison, donc tu n'hésites pas. En tout cas, franchement, c'est un très beau projet. Et surtout, voilà, bah, je soutiens à 200%, voire 300% parce que tu viens de Strasbourg. Et donc aujourd'hui, on rappelle rapidement pour acheter tes produits, donc on va sur le site edbido.fr.
C'est ça.
Voilà.
Là, il y a un lien vers la boutique. Que
ok.
Vous trouvez facilement.
Voilà. Donc, on commande en direct, c'est livré chez toi, à la maison. Et si éventuellement tu habites Strasbourg, tu peux, économiser des frais de
Strasbourg.
Port. Voilà.
T'auras qu'à le partager sur la page éventuellement.
Sans problème, si bien sûr. Bah, tu penses bien, ouais.
Code promo Strasbourg et puis vous aurez le frais de port gratuit sur Strasbourg. Mais, par contre, faudra s'organiser, faudra téléphoner pour organiser le rendez-vous. Soit on vous donne l'adresse pour une récupération, soit voilà, organiser un rendez-vous.
Et un minimum de 150 euros de commande.
Bien entendu.
Ah, faut bien payer le billet de train, enfin le billet de tram, pardon. Ok, donc ça c'est cool. Et prochainement, donc distribué donc sous la chaîne Micromania Zing, qui ça devrait arriver là d'ici peu.
De toute façon, bien dans les mois à venir et les temps à venir, ça sera de plus en plus partout quoi qu'il arrive. Ça atteint de plus en plus la grande distribution. Là.
Carrément. Donc ça se trouve dans pas longtemps, on pourra aller dans n'importe quel marché, enfin hypermarché, et voir les produits Ibido.
L'année prochaine, je pense.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est bien. C'est que c'est un projet qui avance. C'est top.
C'est la renommée de la marque qui prend. La demande augmente. Donc ça commence à intéresser, pareil, de plus en plus de monde. Donc forcément, les gros aussi s'y intéressent. On va voir ça à côté de leur Nintendo Switch dans les magasins. Donc petit à petit, ça se fait. Ouais. Alors à un niveau, il y a quelques Leclerc déjà qui avaient reçu des cubes.
Ok, d'accord.
Les 30 aussi.
Produits dérivés,
pareil, tu vois, ça reste des petites actions ponctuelles, si on peut dire, pour le moment, parce qu'il n'y a pas forcément les gros, bah, comme je t'expliquais avant avec Micromania, c'est que si le gros grossiste ne s'y intéresse pas forcément quand on lui envoie les mails et que quelqu'un qui a un meilleur réseau arrive par notre intermédiaire à l'atteindre, du coup, voilà. Fin, de toute façon, ça se développe petit à petit le temps que ça prend, mais du moment que les gens sont intéressés, ils finissent par avoir le produit, c'est sûr.
Ouais, c'est clair, voilà.
Donc, comme ça intéresse de plus en plus de monde, peut être sûr que.
En tout cas, comme dit, la chronique valide à 300% ces produits parce qu'on a pu les tester avant de vous en parler, voilà, via les relations qu'on a entre guillemets avec la marque. Et on vous recommande clairement et chaudement de l'investissement sur ce type de produit parce que ça marche très très bien, c'est top. Et ça y est, je vois des gens qui me disent « Est-ce que vous allez en offrir pour Noël ?» Calmez-vous les gens.
Alors,
On en discutera plus tard.
On va déjà bien s'offrir des choses à nous. Ouais. Alors Noël,
ça, les gens ils reçoivent beaucoup de cadeaux et nous, voilà.
Mais pensez à nous offrir des cadeaux de Noël. En tout cas, si vous cherchez un fournisseur, il s'appelle Ibido. On est preneur de tous les produits que vous pouvez nous offrir. N'hésitez pas.
C'est vrai que nous, on vous a offert des places pour la Paris Games Week là, il y a pas longtemps.
On a offert des PS Vita. On a offert
PS Vita. Vous faites quoi vous
pour
nous
On reçoit rien.
Tout ce qu'on reçoit, on le redonne.
C'est vrai en plus, c'est vrai, on est des mecs sympas en fait.
Mais c'est clair, trop
sympa. En tout cas, merci Aurélien, moi j'ai vraiment hâte d'arrêter l'antenne pour pouvoir commencer à tâter un peu ce stick.
Mais ça fait envie.
Et donc c'est Raphaël qui continue, alors écoute Aurélien, on va continuer, à quoi tu joues en ce moment?
Très prochainement vous aurez un test des différents produits, alors je sais pas comment on va le gérer, mais vous aurez effectivement un test des produits Ibido sur le site www.lachroniquedugeek.fr. Je pense, je dis ça comme ça au hasard, en random, qu'il y aura le premier test, ce sera le stick arcade, parce que pour l'instant, j'ai une Switch qu'on m'a prêté et possibilité de jouer donc justement à Ultra Street Fighter 2. Tu avais quelque chose à dire, Elsa, non?
Non, du tout.
Bah,
absolument
parfait.
Pas. Moi, je vais dire, si on me l'apprête, je la teste.
Que ça avait l'air sympa et que ouais, j'allais peut-être potentiellement m'y intéresser et pour PC et pour mon portable.
Mais c'est ça qui est bien, c'est vraiment la polyvalence, quoi.
C'est ça.
Le fait que tu puisses, enfin, t'es souvent contraint avec les manettes, en fait, à un support ou alors, une fois que te, enfin, je suis désolée, mais j'ai beau être pro PlayStation, le fait d'associer les manettes à l'époque, c'était super compliqué. Maintenant, c'est que depuis récemment qu'on peut mettre facilement les DualShock 4 sur le PC, mais oui, oui. Ça reste quand
ouais.
même pas.
Ouais, carrément.
Il fallait des logiciels.
Ça a jamais été du plug and play, quoi.
Parce que ce soit fait comme dit avant,
c'est toujours des problématiques
l'exclusivité manette de qualité, c'était Microsoft et pour que ce soit facile et simple d'utilisation. Après, j'avais déjà acheté des manettes PC à bas prix qui géraient super mal les joysticks, où il y avait toujours des choses qui étaient mal foutues au final dans différents jeux. Donc ouais, du coup, c'est super intéressant.
Toujours des questions de code propriétaire, si on peut dire, de communication entre le périphérique et la console, c'est-à-dire s'il va utiliser un mode entre guillemets crypté spécial PS4. C'est pour ça que la PS4 n'est pas encore compatible avec les manettes. Par exemple, la PS3 fonctionne, mais pas la 4 encore. Donc, mais que du coup, il faut passer aussi par un mode spécifique pour l'atteindre, parce que tout ce qui fonctionne
automatiquement. Ah, donc ça reste faisable alors.
Ouais, ça reste faisable.
D'accord.
Avec la PS3.
La PS4, tu peux
la
jouer sur PC.
À venir avec une future update éventuellement.
Moi, je joue déjà à la PS4 sur PC justement avec je sais plus comment s'appelle ce logiciel qui te permet de jouer.
C'est avec ça que je pense que je confondais tout à l'heure le PS Now. T'avais un truc de partage.
C'est le truc
de ton jeu.
C'est pas le PS Now, c'est le truc qui te permet de streamer ta propre console sur un PC dans la même.
PS TV.
Non, c'est juste un PS Connect.
Ah d'accord, ouais.
Okay. Ah oui, et tu peux même mettre sur la PS Vita et jouer.
Voilà, mais tu peux
ta
jouer
PS4 sur la PS Vita.
Question de réseau, par contre, de réseau local, mais tu peux jouer avec ta PS4 sur un PC.
Ouais.
Avec la manette que tu branches en
Sauf
direct.
Sauf que là, techniquement, c'est un peu plus compliqué
et
parce
qui
que. Qui
doit
en
rester
fait,
branché. Mais
ouais,
il n'y avait pas de configuration à faire quand même.
Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que techniquement, en fait, ce qui fait la différence avec les manettes PS4, c'est que automatiquement, elle détecte le faisceau de la PS4 pour pouvoir justement démarrer et actionner la console. Chose que pour l'instant les pads Headbeat 2 ne font pas. C'est bien ça, hein, tu confirmes.
Bah oui, de toute façon, ce que je disais, c'est question de communication entre les périphériques.
C'est, ouais,
si
c'est
tu peux
ça.
Pas
voilà.
Copier exactement le même mode de communication, bah ça marche pas.
Et voilà, donc la chronique du geek te démonte un produit sans même utiliser un tournevis. Parce qu'on est très très fort. Bref, on fait du n'importe quoi.
Et oui, pour conclure, ce que j'allais dire avant, c'est que la plupart des modes fonctionnent en mode clavier. C'est pour ça que si tu passes sur PC.
Ouais, c'est
ou
du mapping
Mac,
de clavier en fait.
Après, tu fais un mapping de clavier et c'est facile, tu vois. Ou sur Android, sur certains modes, voilà, tu fais un mapping de clavier et c'est facile. Donc les boutons, le D-pad, ils fonctionnent toujours comme une croix. Et après, c'est juste les boutons ABC, enfin AX, Y, AB, X, Y, ils auront des différentes fonctions qui seront X, X, B, B, enfin bref. Donc, ce qui permet une compatibilité multiplateforme plus facile. Et après, c'est à chaque fois un mode spécifique. Par exemple, pour la Switch, il faut activer avec Y Start ou Y On. Pour le Mac, c'est avec A et On. Enfin, pour le iPad, ouais. Par exemple. Mais du coup, voilà, c'est juste une petite subtilité d'allumage qui fait que ça rentre dans le mode spécifique.
Oui, de synchro, en fait.
De synchronisation,
avec voilà. Si tu le sais d'avance, il n'y a pas de souci, quoi. Si tu connais ton raccourci pour ta console, il n'y a
bah
pas
oui,
de
enfin, ça, normalement.
Y a aucun problème, quoi.
Ouais, techniquement, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission pour nous présenter justement tes produits. Et effectivement, il se peut qu'on ait un partenariat de ces quatre et que peut-être pour Noël, on arrive à vous faire gagner des cadeaux. Bayet Bido,
une manette, la chronique du geek.
Nishan, nous prochainement, aussi, on veut des cadeaux, Nishan.
Ouais, non, mais c'est pas encore Noël, les enfants,
on
se calme.
On a parlé d'un Noël raclette de nouveau. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée de cadeau pour les membres de l'équipe.
Une manette par personne, et ouais.
Alors, je vais devoir virer des gens parce que ça me coûtera super cher comme Noël, malheureusement.
Perso, si tu veux, je ramène le fromage.
Super.
Ça reviendra super cher aussi parce qu'avec les gars de la chronique.
C'est vrai.
En tout cas, merci à toi d'être venu.
Envoyez vos dons à Micham pour Noël parce que.
Ouais,
donc,
il va falloir.
Ça va être très compliqué pour moi pour m'en sortir à Noël. Merci à toi d'être venu présenter tes produits. Alors, n'hésite pas à venir à chaque émission dès qu'il y a un nouveau produit Headbeat Do à présenter. On t'accueillera les bras vraiment grands ouverts parce que c'est des produits qu'on affectionne vraiment particulièrement. C'est rétro, c'est pour les gens qui ont un truc aimé plus de 30 ans. On va vraiment se reconnaître sur ces produits-là. Et en plus, c'est du matos qui marche très bien. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site headbeatdo.fr pour commander des produits ou prochainement distribuables dans les magasins Micromania du centre-ville Strasbourg. Voilà.
Il y a pas encore de fin. Ça sera pas dans deux semaines.
Il casse mon truc, hein, tu sais.
Non, mais ça sera pas dans les deux prochaines semaines. C'est ça que je veux dire. Tu l'annonces comme si ça allait arriver bientôt.
Pour
pourras les trouver sur leur site online très prochainement.
Ouais, c'est ça. C'est déjà sur leur site online, apparemment. Ouais.
Ça prendra encore quelques temps, forcément, quoi. Enfin,
et pour les gens qui ont vraiment envie d'avoir le produit avant tout le monde, eh ben, ils viennent directement par toi, ils te contactent par le site, et puis,
Êtes sur Strasbourg, vu que de toute façon, la radio est locale, voilà, le plus simple.
Venez récupérer vos colis chez Radio RBS. En tout cas, merci à toi d'être venu. Et puis, on se voit très très bientôt. Bah tiens, tu restes avec nous. On va en profiter pour lancer très rapidement le à quoi tu joues. Et je vais te poser la question directement. À quoi tu joues en ce moment?
Comme je le disais avant, moi, c'est Elite Dangerous. Alors, ouais. Je joue pas à grand chose, mais quand j'ai le temps, je reste sur ce jeu, toujours. Ça va faire un an à peu près que j'avais commencé. Alors, je joue pareil, comme dit, comme j'ai le temps, c'est une fois toutes les semaines. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Donc, voilà à quoi je joue.
Tu joues sur quel support?
Sur PC.
Sur PC, uniquement disponible sur Steam?
Deux, pardon?
Disponible sur Steam?
Non, je crois pas qu'il y ait sur Steam Elite Dangerous. Hein.
Ah, d'accord, ok, ok. C'est, ok.
Je peux vérifier rapidement pour.
Si dans ta base de données, base de données Steam.
Je peux regarder.
Ok, Raph, tu joues à quoi là en ce moment?
Alors, moi, écoute, ben, depuis la semaine dernière, j'ai enfin pu récupérer Mario Odyssey.
J'ai joué à Destiny et à Mario Odyssey.
Si, je joue à Destiny aussi, mais il y a moins en moins de personnes pour jouer avec moi, donc c'est frustrant.
Ouais, pas sur une PS4, on en discutera. Pardon.
Mais non, justement, sur PS4, Destiny.
Ouais, non, mais parle de vrai jeu, pardon. Donc,
et ouais, du coup, je joue à un vrai jeu qui s'appelle Mario Odyssey.
Un vrai jeu, pardon.
Alors, oui. Je vais juste revenir sur ton Destiny. Il y a énormément de gens qui ont été déçus par Destiny et qui sont revenus sur le premier full pack.
Ça m'étonne pas. Clairement,
pourquoi
ça m'étonne pas.
Pourquoi? Parce que toi, tu joues à Destiny, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, justement.
Ouais, clairement. Alors, c'est simple. Ils avaient annoncé tellement de belles choses et tout, etc. Au final, manque de loot. Parce que tout ce que tu fais, au final, bah, t'as pas de reconnaissance, quoi. Tu le fais pour rien. Dans le premier jeu, ben oui, tu le faisais pour monter en lumière, pour gagner tout le stuff que t'as. T'avais je sais pas combien de types d'armures différentes, des plus rares aux moins rares et tout, etc. Mais vraiment, il fallait que tu fasses les quêtes hebdomadaires, donc chaque semaine, pour avoir de nouvelles choses. Là, dans le jeu, t'as quoi? T'as 4-5 loot types d'armures différentes. Une fois que tu les as lootées, tu les lootes en 2-2. Et voilà, c'est fini. C'est pas comme dans le premier où t'allais avoir toute une quête qui va te faire galérer à faire 200 kills à l'épée en mode PVP, le truc genre quasiment impossible dans le premier, mais que tu galérais à faire pour avoir ta quête de l'épée exo et avoir ton épée super rare et tout, qui est juste génial. Là, t'as plus tout ça. Les quêtes, ben, tu peux les faire en escouade, tu les fais en 2-2. Une heure, c'est fait, t'as ton arme exo et voilà, c'est... C'est ça, manque de loot, manque de diversité aussi de jeux. T'as 5 assauts différents, le raid il se bâcle en une heure, t'as même pas beaucoup de difficultés. Ils ont sorti le raid hard, t'as aucun changement. Le niveau par exemple, le niveau du personnage, c'est pas en niveau, c'est en niveau de lumière.
Ouais.
Donc t'as le niveau du perso qui est niveau 20 et à côté de ça en fait toutes tes armes, tes armures vont avoir un niveau de lumière. Et ce niveau de lumière c'est ça qui va être ta réelle puissance par rapport aux ennemis et tout etc. Et donc le niveau il est à 305, le Red Hard ne te donne aucun niveau supplémentaire. C'est juste
d'accord.
Un autre type d'armure
ouais.
Que tu vas pouvoir débloquer. Mais le truc tu t'en fous en vrai, voilà juste les collectionneurs ils vont le faire mais sinon t'as aucun intérêt de faire le raid hard. À l'époque, le raid normal, on va dire, c'était à 280 et le raid hard, il était à 300 de lumière. Donc là, si tu voulais monter à 300 de lumière, bah il fallait que tu fasses le raid hard pour ouais. Débloquer du 300. L'autre, t'étais bloqué à 280. Et du coup, bah ça a perdu tout son intérêt. Et là, les gens, ils ont fait le tour en 2 semaines, ils ont torché le jeu, ils ont fait le tour, ils ont tout looté, ce qu'il y avait à looter. Et donc maintenant, ils tournent en rond.
Super.
Ouais. Je suis triste de dire ça, hein, ouais. Clairement. Je suis
parce
vraiment
que techniquement, les joueurs du Destiny, on en connaît quand même pas mal, qui attendaient justement bah, la sortie de Destiny 2.
Moi, le
et
premier.
Bah, là, ouais, bah, exactement, parce qu'on en discute, ça fait quoi? Ça fait plus de 6 mois qu'on en discute.
Je suis saoulé, mais de fou avec ce
ouais,
jeu.
Ouais, exactement. Et si tu peux arrêter, c'est pas mal. Aujourd'hui, là, je sens que les gens n'ont plus forcément l'envie de jouer à Destiny 2. C'est dommage.
Non, ouais,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut attendre le premier pack DLC, qui sera, à mon avis, payant pour avoir une version add-on du jeu? Ou alors
ouais, déjà sachant que la plupart des joueurs qui attendaient le 1 ont pris le Season Pass.
Ouais.
Season Pass version Bungie, attention, hein, c'est pas toutes les DLC ouais. Qui sortent, c'est la DLC 1 et 2 qui sont comprises dedans. Après pour la 3e, la 4e, la 5e, la 6e qui vont sortir, il faudra repayer de nouveau. Mais en gros, donc il va y avoir un pic de connexion de nouveau pour le DLC 1 pour voir un peu ce que ça donne. Et après, ça va de nouveau être mort et ils vont perdre leur communauté comme ça à force de faire les cons et de pas donner du contenu, quoi. C'est dommage, vraiment dommage. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. Donc le prochain DLC, il sort le 5 décembre. Ça va remonter un peu le niveau, on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, au fur et à mesure, ils vont perdre de plus en plus de joueurs et de bons clients comme moi, quoi. Malheureusement.
Bon, bah ok, bah...
C'est triste.
On vous tiendra au courant sur...
Vous vous rendez compte, on sait à quel point Raph est hypé par Destiny 2. Et vous entendez sa déception, là, c'est que...
Ce qui n'est vraiment pas ouais. Bien.
Ouais, il faut jouer à Elite Dangerous.
Ah oui, tiens, d'ailleurs, après vérification, qui est effectivement disponible sur Steam à 24,99€. Le Horizon, donc c'est celui avec le Season Pass, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est 24,99€.
Bon, bah écoute, mais ouais. Parfait. On continue avec toi, Elsa, justement.
Oui, Mario Odyssey, il est bien.
Ouais, mais t'as déjà dit un jeu, alors laisse-moi parler.
M'en fous, perquisition de micro. Ah. Mario Odyssey, il est trop bien. On dirait du 64. Et il y a des phases où tu rentres dans des tunnels, dans des murs. Et ben, du coup, c'est du Super Mario, ah, genre mais... en mode NES. Et c'est trop bien. Le jeu, il est trop
donc
bien.
Là, t'as mais sinon, Mario Odyssey, c'est trop bien. Destiny 2, c'est trop bien.
Et t'as résumé Nintendo, quoi. C'est juste, on régurgite les succès du passé. Et on les prend.
Vraiment,
oh, c'est Mario
64.
Oh, c'est Mario
chapeau,
Super NES. Oh, c'est Mario NES. Oh, c'est pareil et tout qu'à l'époque,
mais
c'est trop bien.
Tu peux lancer ton chapeau. Attention.
Ouais, hein. Voilà.
Alors, si tu peux lancer ton chapeau, je retire tout ce que j'ai dit.
Exactement. Et arrête d'être jalouse parce que t'as pas de Switch et parce que tu t'ennuies sur ta
PS4. Je suis pauvre.
Sinon, tu peux acheter un Raspberry, c'est pareil que hein le Switch. Hein. C'est
mais j'ai des
même
super
chose.
Jeux sur PS4, je m'ennuie pas du tout.
Troll de Nishan sur exactement, la Switch.
Un non, mais t'as un Raspberry, pareil.
Tu vas faire tourner un Zelda ou un Mario Odyssey sur la Raspberry.
Mais il faut avoir envie. C'est ça le problème, Raph.
What?
Bon, je me permets non, de couper question... court à l'éternel
ouais,
débat
exactement.
Sur la Switch
Elsa,
pour vous parler du jeu auquel je joue en ce moment.
Vas-y, hein, Elsa, à quoi tu joues?
Qui s'appelle Hollow Knight, donc qui était
comment
sorti Hollow Knight. Donc,
ok, c'est le, pas voilà en un mot.
Non, c'est pas
d'accord
en un mot. Et qui était sorti le 24 février 2017 sur PC, Mac et Linux. En sachant qu'a priori, il y a une sortie Switch prévue.
Wow.
Qui était techniquement prévu pour 2017, mais n'ayant pas de date officielle, je ne sais pas si ce sera encore là pour la fin d'année 2017. Ils prévoyaient même peut-être une sortie boîte, alors que sur PC, c'est aussi un jeu des maths. Et ils avaient aussi mentionné une sortie PS4, donc à suivre.
Okay.
En l'occurrence, c'est un jeu qui a été développé par un petit studio indépendant qui s'appelle Team Cherry et d'une équipe de 3 jeunes Australiens. Donc une petite équipe pour un jeu de qualité, je tiens à l'annoncer. Il avait été sorti grâce à un projet Kickstarter qui avait réuni 50 000... te moque pas de moi, s'il te plaît, je galère. 57 138 dollars australiens, ce qui correspond environ à 37 793 euros.
Attends, répète,
ils avaient quand même, en euros, environ 37 793.
Et combien de dollars australiens?
Dollars australiens, 57 138.
Ah oui, ok.
Voilà. Donc voilà, un projet qui a été mené à bien grâce à Kickstarter et qui a été développé pendant environ 3 ans. C'est un jeu qui est un Metroidvania, donc pour ceux dont le terme ne serait pas familier, ça sous-entend en fait une énorme carte et ce qu'on appelle du backtracking, c'est-à-dire de revenir constamment sur ses pas parce qu'il y a des zones de la carte auxquelles on n'a pas pu accéder et plus tard on aura développé des pouvoirs qui nous permettront en fait d'accéder aux différentes zones qu'on a déjà visitées et que qui n'étaient pas accessibles en fait. Voilà. Donc effectivement une carte très grande avec beaucoup de possibilités. Il est un peu dans la branche d'Ori and the Blind Forest dont moi je vous avais beaucoup parlé et qui est un jeu que j'affectionne beaucoup. Donc avec un univers artistique qui est très travaillé, des graphismes 2D qui sont faits à la main, qui sont magnifiques, une super BO, vraiment une direction artistique de qualité. Qui rappelle un petit peu le style de Tim Burton en fait, un aspect un petit peu creepy dans les teintes noires, blanches, grises, voilà, parce qu'on se trouve au final dans un monde qui s'appelle Hallow Nest, donc qui regroupe en fait les deux termes Halloween, donc okay, vraiment la fête des morts, et Nest qui est le nid. Donc on se retrouve avec des protagonistes qui sont insectes à forme humaine un petit peu dans un monde de mort au final où tout le monde est décédé et voilà.
Au niveau graphisme, c'est comment? C'est genre un espèce, c'est un peu cartoon ou c'est assez réaliste quand même?
Non, c'est effectivement plus cartoon, c'est du dessin okay fait à la main mais un petit peu cartoon. On y incarne un héros qui est un petit chevalier donc décédé qui a un crâne qui rappelle un petit peu un perce-oreille dans le design. Okay. Voilà, donc on arrive en fait à Dorsmouth, qui est une ville abandonnée par ses habitants, qui sont tous allés se perdre dans les souterrains, des énormes souterrains qui sont sous cette ville. Et au final, ils oublient, ils finissent par oublier d'où ils venaient et sont coincés dans ces souterrains. Donc là, on va en rencontrer différents, on va pouvoir les ramener vers le village. Et on va aussi rencontrer des insectes qui sont des ennemis. Mmh. Contrairement à Ori, c'est vrai que là-dessus, on a un bon équilibre en fait en termes plateforme action. On va avoir pas mal d'ennemis à affronter. Il y en a quand même 130 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 130
ennemis au total
types
ou...
d'ennemis différents,
ah, différents
types d'ennemis différents, ah, dont ouais 30 boss. dont il faudra aussi apprendre les patterns hein, pour réussir à vaincre, parce que ça c'est une des particularités du jeu, c'est qu'il est pas évident. Il y a certains moments j'avais l'impression de jouer à Dead Souls. Il y a un petit peu le même principe, on va amasser de la monnaie et au fur et à mesure, si jamais on meurt, cette monnaie est perdue, on doit revenir sur le lieu de notre mort pour vaincre notre fantôme, récupérer notre argent.
Vaincre le fantôme ?
Vaincre notre fantôme, mais qui est très très simple à vaincre hein. En gros, il lui faut deux coups. D'accord, pour récupérer notre thune. Mais c'est vrai que parfois tu te fais surprendre parce qu'en cours de route t'es mort une deuxième fois et là t'as perdu ta thune.
Wouhou ! Donc il y a un côté try and die.
Ouais, il y a un petit peu un côté try and die effectivement.
Et quand t'as plus de thune et que tu meurs et que tu te fais buter, et que t'as plus de thune.
Ah, c'est pas grave, faut juste recommencer à tuer des ennemis, réamagasiner de la thune.
Game over et tu recommences.
Non, c'est tout à fait possible, y a pas de problème. On peut mourir en fait à foison.
Ok.
Mais c'est juste que passer la première mort où t'avais des thunes, la deuxième t'auras zéro en fait, où t'auras le nombre de thunes que t'avais eu jusqu'à revenir à ton cadavre. Voilà,
okay.
C'est ça.
Ok. La thune s'efface par.
C'est ça. Okay. Éventuellement, si tout de suite t'es mort. Tu arrives à revenir à ton cadavre directement, tu peux la récupérer.
Ouais.
Mais par contre, si jamais t'es mort entre temps, c'est perdu.
Okay,
t'auras l'argent en fait de ta run précédente pour revenir à ton cadavre.
Okay,
voilà, donc ça c'est l'aspect qui peut parfois paraître un petit peu frustrant où j'ai eu envie de me mettre des claques et de manger ma manette, mais bon, on fait avec. Voilà, parce qu'au final le jeu a vraiment quelque chose d'attirant. Il y a aussi un déblocage de diverses compétences et d'attaques, donc ça qui se fait en découvrant vraiment l'univers. Et également au fur et à mesure, quand on fait revenir des villageois au village, il y a la possibilité d'acheter des cartes. Pour connaître les univers, parce que quand on les explore, tant qu'on n'a pas la carte, on n'y voit rien. Faut se débrouiller, faut essayer de se repérer dans l'univers, savoir où est-ce qu'on est, à l'ancienne, voilà. Et ça, c'est super agréable. En même temps, faut être un petit peu curieux, hein. C'est vrai que parfois, ça peut sembler frustrant, mais.
Ça me rappelle les jeux où j'ai essayé de dessiner des maps, comme ça.
Ah oui, mais en fait,
alors,
ça se rapproche de ça.
Là, j'ai été droit, après, c'était à droite, et du coup, tu te sors un livre, comme ça, et tu commences, enfin, un calepin, une feuille, et tu commences à dessiner comme ça.
Mais exactement, mais j'ai hésité à le faire, en vérité, parce que même si tu achètes des cartes, t'auras vraiment la carte du monde, et tu peux aussi acheter des petites épingles qui vont te permettre de situer les monstres importants, les lieux importants en fait de la carte.
Ça, c'est avec l'argent du jeu que t'achètes donc.
Ah non, non, non.
Non,
enfin,
avec l'argent réel.
Pardon, non, pas de l'argent réel. Oui, l'argent que tu cumules effectivement en jeu. Tu peux aussi acheter des charmes, donc qui sont des améliorations en fait de tes compétences. Et aussi différents objets, genre des clés, une lampe qui va te permettre d'accéder à des endroits qui étaient noirs. Donc sans la lampe, tu peux pas trop te débrouiller dedans. Tu vas tomber dans des pics, te manger des ennemis hyper facilement. Donc dans ce genre de jeu, c'est pas trop possible. Donc voilà, c'est vrai qu'il est bien difficile, il est challengeant, il est hyper intéressant. Comme dit, au niveau de direction artistique, c'est super cool. Et en plus là, récemment, ils ont sorti une extension qui s'appelle The Grim Troop, qui est qui inclut en fait de nouveaux charmes, de nouvelles traductions, la résolution de plein de bugs, une histoire étendue avec une nouvelle quête et de nouveaux ennemis et boss avec aussi de nouvelles musiques. Et donc voilà, ils prévoient dans le futur également de sortir une extension qui nous permettra de mettre nous-mêmes nos marqueurs sur la carte. Comme je disais, ça peut s'avérer super intéressant parce que le monde est énorme. On rappelle que c'est un Metroidvania, donc un monde commun où on peut se balader de long en large et où il y a des trucs à débloquer de partout.
Tu l'as fini ?
Non, je l'ai pas fini. Là, je suis relativement au début. Je pense que j'ai dû jouer 10 heures, quelque chose comme ça.
Ah ouais, donc,
et super bien. Vraiment, je suis ravie de mon achat qui était sur les soldes de Steam. Merci.
Parfait. On enchaîne suite rapidement avec avec Jeanne.
Oui, à quoi je joue ? Je pense qu'on jouait la même chose. À South Park, l'analyse des stars.
Ouais.
Oui,
The Fractured Butthole.
Exactement.
Yes. Butthole.
Butthole.
Oh.
Pardon, j'ai raté un H.
Oh.
Et donc, en fait, j'ai fait finalement le Stick of Truth, le bâton de la vérité, super rapidement avant, là, que j'ai fait en une quinzaine, vingtaine d'heures. Et effectivement, il y a pas mal de changements, mais j'aime assez le nouveau système de combat, finalement, avec le déplacement en gris. Là où dans la précédente version, le bâton de la vérité, c'était un déplacement assez linéaire en fait, en face à face, où t'évoluais sur les trucs. Là, il y a possibilité de se déplacer sur un plateau finalement. Vraiment le côté board en fait. Et toutes tes attaques ont une certaine zone, une zone de dommage en fait, qui correspond à un certain nombre de cases, tout ça, voilà. Donc au début, j'étais pas persuadée quand on m'en a parlé, j'ai eu un peu peur quand on m'a expliqué, ouais, tu te déplaces en 3D pendant le combat et tout. J'étais là, genre, oh là là, mais
bascule,
qu'est-ce
en fait,
que c'est
sur un mode tactics plus.
En fait, non, parce que
RPG,
finalement,
ou...
en fait, il y a un mix tactics RPG, mais c'est quand même super rapide dans le truc parce qu'il y a pas. C'est assez spontané en fait, il y a pas le côté
où t'attends de
prise de tête,
t'es
là genre oh mon dieu mais
cases.
Qu'est-ce que je fais, enfin tu vois assez vite en
lui
fait.
Va avancer de 3 cases après
c'est ça.
Il y avait un jeu comme ça, c'était Metal Gear sur la PSP, où c'était un système de cartes et pareil, tu pouvais avancer que de case en case selon le nombre de cartes que tu sortais. Assez chiant.
Ouais, non, mais là, ça,
mais le système, ça va.
Ça se déplace sur deux axes finalement, donc c'est assez sympa. L'histoire, ça va. Et effectivement, ça ressemble assez au premier quand même, vu que c'est la même. Ben, d'un autre côté, c'est South Park, donc c'est la même ville. Il y a quelques trucs un peu différents, mais c'est assez bon le système d'évolution et de comment t'as appelé ça, le truc où tu te fais bloquer et après tu reviens quand t'as les pouvoirs.
Backtracking,
voilà, il y a quand même pas mal de backtracking.
Ouais,
tu sais que tu dois revenir plus tard pour récupérer des trucs. Ouais. C'est assez drôle. Après, je joue en anglais, donc je trouve ça très drôle. Mais par contre, je ne suis pas garante de la VF. Nishan pourra peut-être en parler.
Non, mais j'ai pas envie d'en parler.
Déjà, c'est pas les vraies voix. Il y a rien à dire, les mecs.
Jouer en VO.
Non, c'est dommage. Ouais, franchement, là-dessus, c'est dommage. Vaut mieux y jouer en VO, en VOST pour avoir les versions originales, pas comme tous les épisodes.
En VO, ceux qui gèrent l'anglais.
Ouais, voilà.
Ils sont bien lâchés niveau humour et niveau Justice Warrior. Et voilà, quoi, ils sont allés loin.
Bon, bah écoute, bah parfait. Bon, on va se quitter là très rapidement. Notre ami de Elbido va nous dire un petit, on nous file un petit message. Dis-moi ce que tu voulais nous dire.
Oui, en fait, je voulais. J'avais pas de casque.
Ça arrive.
Donc ouais, je voulais préciser encore pour tous les fans de Recallbox ou les utilisateurs de nos pads et de Recallbox ou les personnes, parce qu'on a parlé de Retropie un peu avant, mais nous on travaille principalement avec l'équipe de Recallbox parce qu'une bonne partie de cette équipe est française, il faut le savoir. Donc voilà, ils ont tous les pads à disposition, ils travaillent sur les firmware les derniers, enfin les mises à jour pour l'arcade stick par exemple, il y avait un petit bug avec le Bluetooth, il va être corrigé là, normalement ce week-end avec parce qu'il y a une mise à jour qui sort ce week-end là, c'est ça que je voulais annoncer à la base en parlant d'eux. Donc voilà, pour les fans de Recallbox, il y a une mise à jour qui sort ce week-end et par rapport à nos pads, ils ont mis des choses à jour pour la compatibilité.
Donc c'est-à-dire que même avec un Raspberry, techniquement je le branche en direct.
Non, mais c'est ça, l'idée, enfin... Nous, c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec Recallbox, c'est que tu prends ton Raspberry, ton Recallbox, ton pad 8 bits d'eau, et ça fonctionne.
Parfait.
C'est-à-dire que tu fais ton branchement, en 2 secondes, c'est réglé, et en Bluetooth, tu vois, sans faire de manip, sans faire de remapping, sans faire rien du tout.
Ça, c'est top.
C'est-à-dire, ils travaillent vraiment pour que ce soit la compatibilité clé en main, tu vois, pour pouvoir mettre un tampon estampillé
compatible
Recallbox,
pour,
d'accord, par rapport à nos produits.
Je pense que techniquement, je vais tester ça ce week-end. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur ces 2 heures d'émission. La semaine prochaine, on se retrouve encore une fois 20h, 22h sur les ondes du 91.9 FM. On vous rappelle que l'émission, c'est Work Less Play More. Travaillez moins, jouez plus, c'est vraiment notre slogan. La semaine prochaine, exceptionnellement, je ne serai pas dispo. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que nous lançons la RBS Party. Non, même pas, ce sera la RBS Party. On vous lance d'ailleurs la petite pub après vous avoir dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Le 91.9 FM, le www.lachroniquedugeek.fr. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Et pour commencer à avoir une vie, non, pas de vie sociale.
Allez jouer.
Ça sert à rien.
Allez jouer.
À très bientôt.
Vendredi prochain.
Bonne soirée à tous. Okay. Ciao, ciao.
Vie sociale avec votre team de jeu. Bisous. Avec votre guilde.
Bisous, cœur.